Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes au bon endroit, RMC, le temple du sport à la radio. Vous ne manquez rien, comme chaque week-end, des grands événements, ni de l'actualité des championnes, des champions, des compétitions majeures. On est ensemble en direct jusqu'à 17h avec un programme une nouvelle fois chargé que vous partagerez avec Sébastien Piocelle, notre consultant de la Dream Team qui m'accompagne durant 2 heures. Salut Seb.
Salut Simon, bonjour à tous.
Seb, le rideau va se baisser, comme on dit, sur cette saison de Ligue 1, 34e et dernière journée, à vivre en multiplex sur RMC ce soir. On va notamment se pencher ensemble sur cette lutte pour l'Europe, enfin pour la troisième place, et puis celle qui concerne la place de barragiste, hein, qu'il s'agit d'éviter celle-ci et non pas d'accrocher.
C'est ça.
Les commentateurs, évidemment, des différentes affiches concernées seront avec nous pour présenter les enjeux de chaque rencontre. On n'oublie pas le PSG, évidemment, déjà sacré champion de France, il célébrera ce 14e titre sur la pelouse de son voisin, le PFC.
La fête des voisins.
Et ben voilà, on verra s'il y a un petit peu d'ambiance, un début de rivalité face au promu. La lutte pour éviter la place de barragiste, j'en parlais, entre Nice, Auxerre, voire Le Havre, qui n'est pas encore sauvé. Et puis, évidemment, RMC, les yeux, les oreilles partout. Vous vivrez en direct l'arrivée de la 9e étape du Giro. Explication entre favoris attendus. Johan Bredov surveille tout cela pour nous. Le Quintet avec le grand Steeple Chase de Paris. Et puis on se projettera sur la finale du Masters 1000 de Rome entre Sinner et Casper Ruud, ainsi que sur la finale, entre guillemets, du tournoi des 6 nations féminins. Les Bleus du 15 de France qui rêvent d'un exploit face aux Anglaises. On retrouve Pierre Thévenet dans un instant. Voilà le programme qui vous attend jusqu'à 17h. Vous ne bougez pas, parce que comme d'habitude, on va se régaler dans l'Intégral Sport qui démarre tout de suite sur RMC. Avant de dérouler notre programme, on en parlait à l'instant dans le Stephen Brunch, on va retourner en Catalogne, le Grand Prix MotoGP. Bonjour Eddy Artigo.
Salut Simon, salut Seb, rebonjour à toutes et à tous.
Alors pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant seulement, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé là, de ce double carnage là, sur le circuit du Grand Prix de Catalogne?
C'est un véritable chaos donc ici à Barcelone. La première procédure de départ, 12 tours ont été couverts et à la réaccélération dans le virage 10, le leader de la course, Pedro Acosta, a eu un problème mécanique, a été percuté par Alex Marquez qui l'a vraiment pris de plein fouet à 225 km/h. Le pilote espagnol a quitté la piste, a tapé la tête contre le sol, sa moto a fait plusieurs rebonds, a entraîné dans sa chute Fabio Di Gianantonio. Joan Zarco, qui était en cinquième position, a lui aussi été percuté par un appendice aérodynamique de la moto d'Alex Marquez. Et derrière ça, eh bien, Alex Marquez a été transporté à l'hôpital du circuit, conscient. Il a pu parler à ses proches. Alex Marquez, on ne connaît pas encore la gravité de ses blessures. Il y a donc eu un premier drapeau rouge. Simon, une interruption de 20 minutes. Il y a eu une deuxième procédure de départ. Et à l'issue de ce deuxième départ, dans le premier virage, on a vu l'avant de la moto de Joan Zarco. Elle est percutée, l'arrière de la Honda de Luca Marini, qui lui a été percuté, la Ducati de Pecco Bagnaia. Le problème, c'est que Joan Zarco a été accroché à sa moto, a fait bien une sorte de looping avant de s'écraser dans le bac à gravier, donc au bout de la longue ligne droite sur ce circuit de Barcelone. Et pour l'instant, on n'a aucune info sur l'état de santé de Joan Zarco, qui est allongé dans le bac à gravier. Il devrait être transporté dans les prochaines minutes à l'hôpital du circuit et peut-être ensuite à l'hôpital de Barcelone. Mais vraiment, le visage est grave sur tous les pilotes après ces deux drapeaux rouges, ces deux terribles crashs. On vous donnera évidemment des nouvelles dès qu'on en aura de Joan Zarco, mais c'est vrai que l'inquiétude se lit sur les visages notamment de Lucio Cecchinello, le team manager de ce team Honda LCL. Joan Zarco qui était cinquième lors de deuxième départ et qui a donc perdu l'avant de sa moto. Une première information, Simon, la pit lane sera ouverte à 15h12, c'est ce qui veut dire que les pilotes vont repartir pour une troisième procédure de départ, ce qui veut dire que Joan Zarco devrait être évacué dans les prochaines minutes. Et encore une fois, on vous le précise sur RMC, on vous donnera des nouvelles dès qu'on en aura, donc du pilote canois blessé lors de cette deuxième procédure de départ à l'occasion de cette sixième manche du championnat du monde MotoGP sur ce circuit de Barcelone en Catalogne.
On croise les doigts évidemment pour le pilote français de l'écurie Honda et puis on espère que cette course va pouvoir aller à son terme. À tout à l'heure, Eddy, évidemment tu nous fais signe dès qu'il y a du nouveau. Avant de se projeter sur cette dernière journée de Ligue 1 et le multiplex qui vous attend à partir de 20h30, la prise d'antenne de Jean-Louis Tour sur RMC. On va parler de l'un des autres événements du week-end pour le sport tricolore. Ce qu'on peut appeler une finale du tournoi des destinations féminin de rugby, un crunch entre la France et l'Angleterre. Elles s'affrontent à partir de 17h45 au Stade Atlantique de Bordeaux, où l'on va retrouver Pierre Thévenet, notre spécialiste rugby envoyé spécial. Salut Pierre.
Salut Simon, salut à toutes et à tous.
Bon, Pierre, nos Françaises rêvent de ce qu'on pourrait, je parle sous ton contrôle, qualifier tout de même d'un exploit.
Ah oui, carrément, même 17 défaites consécutives face à l'Angleterre. Oh. Voilà où on en est face à ces Anglaises. La dernière victoire, c'était en 2018. Depuis, les Anglaises sont intouchables et elles sont intouchables également dans le monde. Globalement, ça c'est depuis la Coupe du Monde 2022 et leur défaite en finale face aux All Blacks. Elles ont enchaîné depuis ce jour-là 37 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Personne n'arrive à les battre, pas les Canadiennes, pas les Néo-Zélandaises qu'elles ont battues à la Coupe du Monde, notamment qu'elles ont remporté au mois d'octobre. Donc évidemment, c'est un énorme défi pour les Françaises. Mais il y a quelques petites raisons d'espérer.
Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Tu sais, c'est un champion de tennis américain, je crois, Gerulaitis, qui avait perdu 16 fois d'affilée contre Jimmy Connors et qui avait fini par le battre. Et au micro, après le match, il avait dit « Personne ne bat Gerulaitis 17 fois d'affilée ». Alors voilà, espérons que personne ne batte le 15 de France féminin 18 fois d'affilée. Coup d'envoi, 17h45, tu seras avec Lénaïgue Corson, notre consultante, dans un stade, en un mot, qui va faire le plein.
Ça ne sera pas plein à craquer, il n'y aura pas 42 000 qui est la capacité du stade. On devrait être autour de 35 000, ce qui est déjà un record pour le 15 de France féminin sur le sol français. Bon. Le précédent, c'était 28 000 à Chaban il y a 2 ans. On est 7000 personnes au-dessus, donc c'est un record pour un match de rugby féminin sur le sol français.
Et c'est déjà à souligner, à célébrer. On te retrouve tout à l'heure, Pierre, en compagnie de Léanique. On se penchera un petit peu plus en détail sur les chances de nos Françaises, la façon dont elles se sont préparées. Il y a quelques absentes du côté anglais.
Il y a des petites raisons.
On va trouver des raisons d'espérer. À tout à l'heure, Pierre.
À tout à l'heure.
Avant de parler foot, un petit détour par ce qui se passe sur les routes du Giro, le Tour d'Italie. C'est la 9e étape aujourd'hui entre Chiavia et Corno alle Scale. 184 km. Je l'ai fait juste pour Johan Bredov, notre spécialiste cyclisme, qui suit la course pour nous. Salut Johan.
Salut Simon, salut
Seb, salut à tous.
Écoute,
Ciao,
je suis incapable de le faire.
Alors, il faut s'entraîner. Beaucoup.
Tu t'es entraîné en plus là?
Je me suis entraîné. J'ai jamais appris l'italien.
Mais t'as passé l'après-midi à t'entraîner.
Ça se voit. Oui, enfin, il y a deux noms de villa. Bon, allez, soyons sérieux. 9e étape, je le disais. Johan, ça grimpe aujourd'hui. Oui. On peut s'attendre à une explication entre les favoris pour se disputer la victoire d'étape et peut-être prendre le maillot rose.
On l'espère en tout cas, mais ça devrait bien en avoir lieu. 184 km au programme donc de cette étape. Il en reste un peu moins de 80 à parcourir et tu le disais, arrivé au sommet de deux ascensions en fait qui vont s'enchaîner. D'abord le Quartiola, donc sa petite ascension, troisième catégorie, et puis la vraie ascension, tu le disais, le Corno aille escaler. Donc c'est un peu moins de 11 km, 6% de moyenne comme ça, mais sauf qu'il y a des replats, des descentes pendant la montée. Les 5 derniers kilomètres seront les plus difficiles, à plus de 10% de moyenne. Et oui, ce devrait être la deuxième explication entre les favoris depuis le début de ce Tour d'Italie. On l'a eu sur le Blockhaus avec la victoire de Jonas Vingegaard, 13 secondes d'avance sur Félix Sagan. On va retrouver les mêmes coureurs.
Il est favori,
donc,
certainement. Vingegaard aujourd'hui.
Bien sûr qu'il est largement favori, Jonas Vingegaard. Mais attention, parce que on a vu que sur le Blockhaus, la dernière partie d'ascension a été compliquée pour le Danois qui s'est fait reprendre pas mal de secondes par l'Autrichien de la Decathlon CMA-CGM. Donc on va retrouver Jonas Vingegaard qui, on le rappelle, est toujours deuxième du général, parce que c'est le Portugais Afonso Eulalio qui est leader avec 3 minutes et 15 secondes d'avance. Mais comme ce n'est pas un grimpeur, il va les perdre quoi qu'il arrive. Peut-être pas aujourd'hui, mais sur le chrono mardi.
Il a bien résisté dans le bloc. Il a fait une belle course.
Ouais, il a terminé à 3 minutes de Vingegaard, mais 15e. 15e de l'étape, donc il est porté par ce maillot rose. Là, il va pouvoir peut-être encore résister, mais on verra ça. On verra si Jonas Vingegaard aussi a envie d'aller chercher le rose dès aujourd'hui. Mais on va retrouver Jonas Vingegaard, on va retrouver Félix Gall de la Decathlon CMA-CGM, d'ailleurs qui roule pour revenir sur les échappées. Ils sont 8 en tête à 76 km de l'arrivée, un peu moins de 2 minutes d'avance. On aura du Jay Hindley et de Giulio Pellizzari pour la Red Bull Bora, Ben O'Connor pour la team Jayco, et surtout bah nous, en tant que Français, on est chauvin et on va attendre beaucoup de Mathis Rondel de la Tudor Pro Cycling Team, qui a fait une très belle montée du Block House.
Magnifique, sixième, je crois, à l'arrivée.
Sixième, exactement, et qui a dit à la fin qu'il aurait pu faire mieux. Donc,
il était déçu en plus, c'est vrai.
Bah oui, c'est ça. Donc, on attend beaucoup de Mathis Rondel, qui est pour l'instant huitième du général. Il a perdu une place hier parce que Scaroni était dans l'échappée. Mais voilà, on attend beaucoup du Français. Encore 76 km à parcourir dans cette étape avant l'arrivée au sommet, donc, et 8 hommes en tête, 1 minute et 40 secondes d'avance sur le peloton des favoris.
Et des points réguliers avec toi jusqu'à l'arrivée de cette 9e étape du Giro. Eddy Artigau, le Grand Prix MotoGP de Catalogne, ça devrait repartir de façon imminente.
Oui, Simon, la pit lane a été ouverte. Les pilotes vont donc repartir s'immobiliser sur la grille de départ. Il y aura ensuite un tour de formation pour un troisième départ. L'info qui est tombée il y a quelques instants, c'est que Juan Zarco a été évacué au centre médical du circuit. Il pourrait peut-être regagner lui aussi l'hôpital de Barcelone, mais on ne sait pas si Juan Zarco est conscient l'état de ses blessures. On sait que pour Alex Marquez, qui avait été victime d'un terrible crash lors du premier départ après 12 tours, et lui conscient, il a pu, on le rappelle, s'entretenir avec ses proches. On ne connaît pas là non plus l'état de ses blessures, mais on va donc repartir pour un format ramassé, une course sprint de 12 tours avec en pole position Pedro Acosta. Il n'y a plus qu'un seul Français sur cette grille de départ, c'est Fabio Quartararo qui s'élancera en 13e position, puisque Juan Zarco évidemment ne reprendra pas le départ de cette troisième course ici à Barcelone. Donc le tour de formation, Simon, et puis le troisième départ, ce sera dans un petit peu moins de 2 minutes ici sur ce circuit de Barcelone.
On suivra évidemment le dénouement de ce Grand Prix et évidemment on cherchera à avoir des nouvelles rassurantes de Juan Zarco. Juan Zarco, donc évacué, tu viens de nous le dire tout à l'heure, Eddy. Place au foot, le dénouement de la saison de Ligue 1 2025-2026, comme le veut la tradition, toutes les équipes jouent en même temps les coups d'envoi des 9 rencontres de cette 34e journée à 21h. Prise d'antenne de Jean-Louis Tour sur RMC à 20h30. Pour se mettre un petit peu dans l'ambiance et faire monter la température. Parmi toutes ces rencontres, plusieurs enjeux, en haut, en bas. Le plus important, c'est de savoir qui accompagnera directement le PSG et le Racing Club de Lens la saison prochaine en Ligue des Champions. Quelle équipe complétera le podium de la Ligue 1? Elles sont trois à pouvoir encore y prétendre. Dans l'ordre du classement, Lille 3e, Lyon 4e, Rennes 5e. Lille reçoit Auxerre, l'OL accueille Lens et Rennes se déplace au Vélodrome face à l'OM qui convoite, lui, la cinquième place qualificative pour la Ligue Europa. On démarre avec Lille et Lyon, les deux équipes les mieux placées avant cette journée. Et puis, et pour avoir toutes les infos nécessaires, on est ravis d'accueillir Jean Baumel et Édouard G qui commenteront Lille-Auxerre et Lyon-Lens. Bonjour messieurs.
Salut Simon, salut Seb.
Salut Édouard. Salut Simon.
Salut à tout le monde.
Salut. Alors, honneur à toi, Djibo, le mieux classé, Lille, 3e avec 61 points, un d'avance sur Lyon, 4e.
Ouais, profites-en.
Ah, mais bon, moi, je vais t'embêter, je vais peut-être en avoir deux.
Ouais, il vise de doubler.
Ouais, c'est vrai, t'en as trop, finalement. Il faut en laisser à Ronald.
Ah, bah, je peux pas tout faire. Il y aura des choix à faire par moment.
Jean, en tout cas, sur le papier, c'est du velours, parce que avec la réception d'Auxerre, 15e de Ligue 1, 16e équipe au classement à l'extérieur, j'ai dit a priori, parce que Auxerre, Djibo, qui joue son maintien ce soir et qui va bien après deux victoires d'affilée en Ligue 1.
C'est vrai, et puis les derniers matchs à domicile de Lille, c'était contre les deux autres équipes qui sont concernées par les barrages, c'est Le Havre et Nice, et ils avaient fait 0-0 à domicile contre Nice, un but partout contre Le Havre, ce qui veut dire que Lille n'a pas le match gagné d'avance. Ça, ils en ont pris bien conscience cette semaine, les joueurs de Bruno Genesio et tout le staff. D'ailleurs, ils n'ont même pas été au trophée UNFP, hein. Il y avait Boadi et Bruno Genesio qui étaient nominés. Il y avait cette envie de rester ensemble, de se renfermer un petit peu dans leur bulle pour se concentrer uniquement sur l'objectif, gagner et ne pas penser aux autres, parce que si tu gagnes, tu es sûr bien d'aller en Ligue des Champions, parce que tu terminerais à coup sûr troisième. Mais il y a déjà eu par le passé aussi avec Fonseca des dernières journées contre Nice, un 2-2, Nice qui n'avait plus rien à jouer, un match contre 3 qui était déjà en Ligue 2 où tu fais un match nul, où tu perds une place. Donc on sait sait que ça peut arriver, ce genre de scénario négatif pour les Lillois. En revanche, ils ont au niveau de l'effectif, il y a pas de souci, quoi. Il a une équipe en grande forme et il y a pas d'absent majeur à part Thiago Santos qui est écarté parce qu'il a pas la bonne attitude, mais en même temps il jouait pas, donc c'est pas très grave. En tout cas, c'est un 11 voilà, c'est l'11 type, le plus performant que Bruno Genesio pourra aligner ce soir.
Justement, l'entraîneur de Lille sait qu'il doit se méfier de l'AJ Auxerre. Malgré tout, il est quand même plutôt confiant. Plusieurs raisons pour cela, on l'écoute.
Jusqu'à maintenant, je suis plutôt satisfait du comportement de mes joueurs et de mon équipe. Cette semaine s'est bien passée aussi. Maintenant, c'est une finale. Pour nous, comme pour Auxerre, qui est une des meilleures équipes en termes de points pris sur les derniers matchs, on sait que ce sera comme d'habitude un match difficile, mais on a notre destin entre nos mains ou nos pieds, résister l'un ou l'autre. On est chez nous avec notre public, qui sera très très nombreux. Voilà, à nous de prendre ce match avec le même sérieux, la même application qu'on a eu ces derniers temps.
Seb, une victoire et Lille est assurée d'être en Ligue des Champions la saison prochaine, troisième de Ligue 1. Est-ce que Lille ferait un bon, beau troisième de ce championnat ?
En tout cas, ouais, ça serait avec Lyon, les deux équipes les plus méritantes, parce que bon, il faut dire aussi que comparé par exemple à Rennes, j'enlève complètement l'OM, mais c'est deux équipes qui ont joué aussi la Coupe d'Europe. Donc on a vu d'ailleurs qu'une fois sortis de cette compétition, avec les retours un peu de blessures, ils ont un parcours, je dis pas similaire, mais bon, ils ont reparti sur une dynamique positive. Et c'est vrai que bon, Lille, ils se sont donnés, alors qu'on se rappelle des moments où Genesio ne trouvait plus les leviers, il s'en était... Il en avait aussi parlé devant la presse et finalement aller se retrouver là avec ce point d'avance en recevant Auxerre sur la dernière journée. Ils ont toutes les cartes en main, mais c'est pas le match le plus simple. On a souvent parlé avec Gibault, je disais souvent que Lille avait du mal vraiment à concrétiser dans ces moments-là. Et moi, contrairement aux équipes qui n'ont rien à jouer, il vaut mieux jouer contre une équipe qui a quelque chose à jouer, justement, parce que Auxerre aussi va devoir laisser des espaces, ouais. Ils vont devoir certainement gagner le match aussi. Mais voilà, moi je les vois vraiment bien et je vois pas pourquoi ils arriveraient pas à s'imposer.
Il y a un match aller aussi qui était assez dingo, hein. Victoire 4-3 dans les dernières minutes à 9 contre 9. C'était d'ailleurs Benjamin André qui avait marqué. Mais ce qu'il faut souligner aussi, je l'ai pas dit, c'est que Auxerre, certes, il joue le maintien, les barrages. Mais ça joue bien au CR. Franchement, ils n'ont pas été vernis sur plein de matchs. Je me souviens d'un match à Bollard, le match aller contre Lille. Ils ont perdu beaucoup de points. Christophe Pélissier, que je connais un petit peu, il me le disait, que à force, des fois, c'était compliqué de relancer la machine parce que tu fais des bons matchs, mais tu n'as été pas récompensé. Et ils se sont accrochés jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que ça sera pas facile, parce que on connaît le tempérament de cette équipe. Et franchement, je pense que c'est pas une équipe qui devait être en barrage. Je pense que leur place était aller 11-12. Ils devaient normalement se maintenir tranquillement.
Mais pendant un moment, ils cherchaient vraiment cette place de barragiste. Hein. C'était l'objectif sur les, on va dire, les 10 dernières journées. Et d'ailleurs, ils s'étaient fixé ce match contre Nice qu'ils ont remporté. Et c'est vrai que là, eux aussi, quelque part, ils sont sortis de cette zone. Bien sûr, le match et le fait de jouer à l'extérieur, ça complique la tâche. Mais ils ont aussi quelque part leur destin entre les mains en gagnant.
Et en effet, c'est victoire contre Angers et l'OGC Nice successivement. Peuvent laisser des regrets par rapport au reste de la saison, parce que ce qu'on a vu de belles choses ces dernières semaines. Edouard, juste derrière, c'est l'OL qui peut encore y croire. Alors pour ça, il faut battre Lens et que Lille ne gagne pas. Troisième place, qui, on se souvient de ce qu'on disait, ce qu'on pensait, ce qu'on redoutait à l'été dernier, Edouard. Cette troisième place qui serait un peu plus qu'une cerise sur le gâteau de la saison lyonnaise. Hein.
Oui, tout dépend quelles lunettes on met. Les lunettes des acteurs, ils se disent oui, on revient de loin. Certains supporters disent oui, mais vous nous avez proposé tout au long de l'année souvent une place sur le podium avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Donc qu'elle nous file sous le nez, ça serait vraiment pas cool d'une certaine manière. Voilà, il y a deux lectures franchement de l'intérieur du groupe et puis aussi des supporters, voilà, qui ont été habitués tout au long de l'année à manger mieux que ce que l'on avait prévu l'année dernière, c'est-à-dire un bon maintien au mieux avec des joueurs, parce que c'est vrai que c'est facile de dire que maintenant Schulz est un très bon joueur, Afonso Moreira c'est un très bon joueur, mais vous remettez tout ça au mois d'août dernier, On ne connaissait pas Pavel Schuss. Voilà, il y avait moins de certitudes. Donc voilà, il y a vraiment deux écoles au niveau des alentours, des suiveurs un petit peu de l'OL, que l'on soit acteur ou que l'on soit supporter. Voilà, ces deux idées, une plus froide et puis l'une plus chaleureuse, en disant bah voilà, il faut absolument qu'on ait la Ligue des Champions, sinon ce serait la déception. Il y a un panel de couleurs assez vaste.
Seb, 6 ans que Lyon attend la Ligue des Champions, ça fait long quand même pour un club de cette dimension, même si il a connu des soubresauts et des difficultés. En cas d'échec, il faudra se satisfaire de cette quatrième place ou tu te mets à la place des joueurs lyonnais?
J'enlèverai ce terme-là. Pour moi, quoi qu'il arrive, il y aura de la déception, allez, peut-être des illusions, mais pas d'échec. C'est pas les mêmes. Non, pour moi, c'est
pas les mêmes. Je parle en cas d'échec, échec de la mission, troisième place
parce
ce soir.
Que
oui.
J'entends le discours de Fonseca et je pense que c'est pour enlever un peu de pression aussi à son groupe, mais forcément que. Et aussi sur l'aspect financier qui va forcément compter aussi. Cette troisième place-là, s'ils arrivent à coiffer Lille sur l'épilogue de ce championnat, ça ne sera pas immérité et finalement ils auront tout gagné, donc la qualif, une fin de saison à Pienne. Mais si éventuellement ils finissent que quatrième, il y aura de la déception parce que quand on est compétiteur et qu'on a vécu ce genre de saison, on a envie d'y croire jusqu'au bout. Mais il y aura pas d'échec. L'échec ou la grosse désillusion, ça serait que Rennes passe devant, par exemple.
Oui, a priori, on en reparlera dans un instant.
Qui sortent des quatre premiers, même si c'est toujours très compliqué de se préparer en faisant les barrages de Ligue des Champions. Mais s'il y a une petite chance de rattraper le wagon après, je pense que ça vaut le coup, surtout pour Lyon, avec les problèmes financiers qu'il y a.
Voilà, le Stade Rennais, on en parlera d'ici quelques minutes. Jean Baumel au commentaire de Lille Auxerre, Edouard G au commentaire de Lyon. Lens, c'est le multiplex de la dernière journée de Ligue 1. Merci beaucoup, messieurs. Djibo, tu reviens tout à l'heure pour
exactement
faire le versant auxerrois et cette lutte pour éviter la place de barragiste. Et sinon, comme je le disais, on vous retrouvera aux commentaires de ces rencontres à 21h et même d'ici là en projection sur l'antenne de RMC. Avant de faire une petite pause, détour par le Grand Prix Moto GP de Catalogne. Eddy Artigo, la course est repartie et on a des nouvelles de Johan Zarco.
Oui, Johan Zarco qui est conscient, qui est actuellement au centre donc médical de ce circuit de Montmeló à Barcelone en Catalogne, et il ne serait pas dans un état critique. Ce sont des infos qui sont vraiment tombées, Simon, il y a quelques instants. Effectivement, la course a repris. On a déjà disputé 5 tours à l'occasion de ce troisième départ. Il en reste encore 7 et pour l'instant, Pedro Acosta est en tête devant Joan Mir à troisième position pour Fabio Di Gianantonio. Le seul Français encore en piste, Fabio Quartararo, occupe pour l'instant une belle 7e place, mais l'info, c'est que Joan Zarco est donc conscient actuellement donc au centre médical de ce circuit de Barcelone et il n'est pas dans un état critique. On en saura vraisemblablement un petit peu plus, Simon, dans les prochaines minutes, les prochaines heures, donc sur l'état de pilote du team Honda LCR, hein, qui avait percuté Luca Marini lors du deuxième départ et qui avait été accroché à sa Honda avant de terminer sa course dans les bacs à gravier. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant donc sur l'état de Joan Zarco. La course qui se poursuit donc, et pour l'instant donc Pedro Acosta est en tête, toujours devant Joan Mir et Fabio Di Gianantonio. La fin de la course, ce sera dans un petit peu moins d'un quart d'heure.
Et on va continuer de croiser les doigts, même si on accueille avec le sourire ces nouvelles un petit peu rassurantes pour notre pilote français. À tout à l'heure, Eddy. L'Intégral Sport revient dans un instant en compagnie de Sébastien Piocel et des commentateurs des différentes rencontres de ce multiplex. On continue de se pencher sur la course à la troisième place, la Ligue des Champions, mais également aux autres places européennes. Vous ne bougez pas.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
Accompagné jusqu'à 17h de Sébastien Piocel, notre consultant foot de la Dream Team. On se projette ensemble sur les enjeux autour de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Le rideau tombe sur cette saison 2025-2026 du championnat de France. Dispositif exceptionnel, évidemment, vous y attendez de RMC. Les 9 matchs en direct en simultané sur notre antenne. Nos commentateurs sur tous les stades autour du chef Jean-Louis Tour qui prendra l'antenne à 20h30 histoire de faire monter un petit peu la température. D'ici là, on se projette avec vous, qu'on attend d'ailleurs, hein, nombreux au 32-16. Hein, venez nous confier vos espoirs, vos craintes avant cette dernière journée, même si peu d'équipes sont encore concernées par des enjeux directs attachés aux résultats de ce soir. On continue de se pencher sur cette la place la plus convoitée de ce championnat désormais. La troisième, elle concerne aussi mathématiquement, on parlait à l'instant de Lille et Lyon, elle concerne mathématiquement le Stade Rennais, cinquième avant cette journée. Alors à 59 points, les joueurs de Francaise doivent, afin d'y croire, d'abord battre l'OM ce soir au Vélodrome et espérer que Lyon ne gagne pas face à Lens et que Lille perde à la maison face à Auxerre. Improbable, mais pas tout à fait impossible, même si face à Rennes, l'OM doit gagner pour se qualifier en Ligue Europa. C'est Florent Germain, au commentaire de cette rencontre, qui va peut-être nous le confirmer. Il passe une tête dans l'intégral sport. Salut Flo.
Salut Simon, salut Seb, salut à tous.
Salut Flo.
Flo, je le disais, l'OM doit gagner, puisqu'en cas de succès, les Marseillais piqueraient la cinquième place au Rennais à la différence de but.
Voilà, au moins c'est clair. L'objectif de l'OM, c'est une victoire, sinon rien, parce que sinon, il faudra peut-être écouter le résultat de Strasbourg-Monaco. Hein. Bon, ça peut être aussi un enjeu, puisque les Monégasques ont peut-être aussi des bobos depuis la fin de saison qui est peut-être plus décevante que ce qu'on imaginait, notamment après avoir battu l'OM. Donc Monaco n'y arrive pas non plus, et si jamais il y avait un résultat favorable à l'OM, c'est-à-dire tout sauf une victoire de Monaco, peut-être que Marseille pourrait presque se contenter d'une sixième place et aller supporter le Racing Club de Lens en finale de Coupe de France dans une saison rocambolesque. On disait ce matin en souriant
que de désillusions,
que voilà, sait-on jamais, hein, une fin de match où Rennes domine, peut-être que Marseille se contenterait d'un nul et au final serait quand même en Ligue Europa. Donc je l'espère pas pour les supporters marseillais, mais effectivement c'est une petite finale, une vraie finale pour la Ligue Europa, et je pense qu'on aura un match un peu débridé parce que Rennes peut se lâcher et pourquoi pas croire à un scénario favorable et un multiplex de folie qui les amènerait en Ligue des Champions, et là ce serait exceptionnel pour les Bretons.
Alors Rennes, meilleure équipe de Ligue 1 tout de même, hein, méfiance depuis le changement d'entraîneur, si on compte également celui remporté par Sébastien Tambouret en attendant la nomination de Francaise. On en parlait avec toi, Flo, ce matin. Il sera bien temps de savoir, en cas de qualification pour la Ligue Europa, si on peut s'en satisfaire ou avoir des regrets. La question a été évidemment posée à Habib Bey, l'entraîneur marseillais, en conf de presse avant cette rencontre. Pour l'entraîneur marseillais, une qualification en Ligue Europa, ce serait un peu plus qu'un lot de consolation.
Non, mais c'est pas une question de sauver la saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pas non plus de se dire c'est pas si mal. C'est-à-dire que pour moi, si on utilise ces mots, c'est manquer de respect à cette compétition. Je reviens sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette saison qui est face à nous aujourd'hui à date, c'est de se qualifier pour l'Europa League. Et si on se qualifie pour l'Europa League, il faudra avoir de la satisfaction de se qualifier pour cette compétition-là. Après, on pourra revenir sur la lecture de la saison, les déceptions, le fait qu'on n'ait pas atteint l'objectif prioritaire. Il y aura pas de problème avec ça. Mais mon focus aujourd'hui à moi, c'est Rennes à domicile dimanche et de se qualifier pour cette compétition qui est une compétition importante et que le club doit valoriser et que on doit tous valoriser, tout simplement.
Seb, au-delà de la position de l'entraîneur marseillais qui est bien obligé un petit peu de sauver son bilan, même si on ne le connaît pas encore tout à fait, consolation ou déception une qualification en Ligue Europa pour l'OM?
Moi déjà perso, Bibet, je l'écoute plus. Non mais c'est vrai, finalement.
T'as lâché toi aussi, t'es comme certains joueurs.
Non mais je l'écoute plus parce que de toute façon, bilan pas bilan, aujourd'hui il y a qu'un résultat. Si ils veulent pas qu'il y ait une énième désillusion dans la saison pour les supporters, voire pour les quelques joueurs qui se sentent encore concernés, c'est de gagner, peu importe le contenu, tout ça. Donc aujourd'hui c'est victoire à tout prix. Je pense quand même que la Ligue Europa, je parle pas des barrages, hein. Si jamais, je pense qu'il y a des barrages si jamais l'OM finit sixième, mais la qualification directe avec une victoire sur le dernier match à domicile, attention, je pense pas qu'il y aura de fête, quoi que ce soit, mais au moins sur le projet qui va arriver dans les quelques jours ou semaines à la fin de ce championnat, ça permettrait quand même. Sur le recrutement, sur la dimension qu'a l'OM au niveau européen, de partir sur des bases correctes, on va dire cohérentes, parce que la Conference League, si jamais ils doivent y être quand même, ça reste une Coupe d'Europe, mais bon, c'est quand même tout autre chose. Bien sûr que ça reste un échec cuisant cette saison. Je parlais de désillusions, la Coupe de France, ils ont toujours parlé qu'il fallait être sur le podium, enfin ça a été voilà jusqu'à encore il y a quelques semaines. Et quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, on pourra demander à n'importe quel supporter marseillais ou suiveur. Oui, c'est un échec cuisant cette saison. Enfin, je sais pas, je parle sous le contrôle de Flo, mais c'est quoi qu'il arrive, c'est un échec.
Non, mais c'est sûr et certain. On le disait ce matin, on peut pas sauver la saison, juste essayer de se projeter sur la suivante en se disant avec un recrutement qui tiendrait la route et évidemment la nécessité de vendre. Hein, et si possible dès le mois de juin, enfin avant la, la fin juin.
Mais ça serait juste chose, par rapport aux ventes, quoi qu'il arrive, même s'il y a un besoin réel. Mais il faut de toute façon, je pense qu'elle a été hyper marquante
bien
pour
sûr,
plein
bien
de
sûr.
Joueurs.
C'est pas que financier, voilà, c'est aussi sportif et je dirais même que les joueurs sont demandeurs hein, parce que la fracture, elle est des deux côtés. Elle est par rapport à la vision qu'ont les dirigeants ou même les supporters de certains joueurs. Et certains joueurs se disent, voilà, ou c'était l'année de trop, ou j'ai fait le mauvais choix, ou à un moment donné, c'est pas un club pour moi. Donc les joueurs en sont conscients. C'est pour ça que cet été, quoi qu'il arrive, et je le dis le plus tôt possible parce que il y a cette nécessité d'équilibrer un petit peu les comptes avant fin juin, bah il faudra redessiner les contours de l'effectif et effectivement si ça se fait être la perspective d'une Ligue Europa, il y a beaucoup de supporters marseillais quand même. Alors évidemment tout le monde préfère la Ligue des Champions parce que en fait ce qui est frustrant et c'est en ça que la saison est un vrai échec, c'est que rappelez-vous il y a un an ou même pas hein, si on revient à septembre octobre qui était la bonne période de cette saison olympienne, on avait le sentiment quand même que l'OM était sur une construction, que Marseille se rapprochait un petit peu, travaillait bien, qu'il y avait des hommes forts à la tête de ce projet. Bon, ouais. Tout est parti, enfin tout a volé en éclats. Donc évidemment, faut repartir sur un nouveau cycle, etc., etc. Mais malgré tout, un nouvel effectif et la Ligue Europa. Enfin, les supporters marseillais, ils ont cette petite passion aussi des rendez-vous européens. Donc, je pense que même s'ils sont boudeurs, ils sont énervés, ils sont agacés. Il y aura des tensions en tribune, peut-être. On surveillera tout cela ce soir. Un rendez-vous européen dans la semaine olympienne la saison prochaine, ça peut
même la conférence
faire plaisir à tout le monde.
Même la conférence
Ligue. Non, la Ligue Europa principalement. Ouais, non, mais la Ligue Europa, ce serait un lot de consolation sympa. La conférence Ligue, ce serait presque vécu comme un camouflet.
Ouais, j'ai toujours dit que vu qu'il va y avoir une reconstruction avec un nouveau projet, alors est-ce que c'est un recrutement français ou. J'ai toujours dit qu'à la rigueur, il vaudrait mieux ne pas avoir de Coupe d'Europe.
Ah bon,
du tout. Oui. Pas la Ligue Europa, mais il vaudrait mieux un championnat pour l'OM la saison prochaine sans Conférence Ligue et plutôt se concentrer pour retrouver les trois premières places. Plutôt que
et
de...
ça, Marseille ne le saura pas ce soir, puisque au pire, l'OM finit septième du championnat. Et donc, même une septième place en cas de victoire de Lens en Coupe de France, c'est qualificatif pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Et là, j'insiste là-dessus, les barrages, ça du coup commence très tôt. Bon, pour reconstruire, quand tu pars sur un nouveau projet, que tu peux éventuellement tarder un peu à recruter, ça peut être une galère sans nom de repartir sur des barrages. À la limite, si tu es qualifié directement en Ligue Europa, tu sais où tu vas et certains disaient même je préfère la cinquième place à la quatrième parce qu'on sait que Marseille ne passera pas les barrages de Ligue des Champions. Bon là la question se pose plus mais pour reconstruire c'est pas terrible. Là si tu as la cinquième place tu sais tu as une visibilité
Et tu sais combien tu vas toucher.
Exactement.
Et ce matin on a souligné que ta formule avait fait mouche Flo parce que sans savoir si ça sauverait le bilan de cette saison, une qualification pour la Coupe d'Europe, elle sauverait au moins un petit peu
la prochaine saison, c'est vrai.
Et le bilan Flo, tu as commencé à sous-entendre qu'il pourrait y avoir des petites tensions en tribune. À quel accueil on doit s'attendre pour les joueurs de l'OM au Vélodrome ce soir?
Alors écoute, s'il n'y avait pas cette finale pour la Ligue Europa et cette possibilité d'être cinquième, je pense qu'effectivement l'ambiance aurait été très pesante, voire tendue. Il y a eu des échanges entre groupes de supporters là depuis plusieurs jours. Ce qui se profile, ce sont des banderoles, notamment en virage, des groupes de supporters avec en plus les fanatiques qui sont punis puisqu'il y a une zone du Vélodrome en haut du virage nord qui sera à huit lots. Le mot d'ordre des groupes pour montrer un certain mécontentement en début de match, ça va être de rester plutôt silencieux. Mais j'ai quand même pas mal de retours de gens qui étaient réticents à aller au stade parce que désabusés, parce que voilà, vrai divorce, voire des amours avec cette équipe-là notamment. Mais c'est un dernier match, mais il y a de l'enjeu. Il fait beau sur Marseille, un petit peu de vent, mais ça va. Enfin, il y a quand même l'envie d'y aller une dernière fois et de pousser derrière derrière l'équipe. Donc je pense que même les tribunes latérales vont essayer de faire le métier. 63 000 supporters, on nous annonce, donc on est sur un guichet fermé à part la zone à huis clos. Je pense qu'il y aura quand même une belle ambiance. Après, faut que ça tourne bien. C'est sûr que c'est pour ça que je disais à Simon qu'on aura un œil sur les tribunes, parce que si Rennes domine la rencontre, ouais, si Marseille est au plus mal, si certains font pas les efforts, ce que je n'ose pas imaginer côté marseillais, là effectivement ça peut être très tendu. Donc le club et les forces de police aussi, enfin tout le monde est vigilant par rapport à une fin de match où Marseille ne gagnerait pas et où ça se passerait mal.
Et on surveillera ça évidemment avec toi, qu'on retrouvera autour de Jean-Louis Tour à partir de 20h30. Flo Germain au commentaire de ce Marseille Stade Rennais. À tout à l'heure, Flo. La dernière équipe qui est concernée par cette course à l'Europe, c'est l'AS Monaco. L'ASM qui peut encore espérer donc finir sixième. Pour ça, il faut gagner à Strasbourg, pendant que l'OM s'inclinerait face à Rennes, parce que sinon, alors sans attendre la finale de la Coupe de France, en cas de nul de l'OM, il faudrait gagner par 10 buts d'écart pour l'AS Monaco sur la pelouse de Strasbourg. On va demander à Sébastien Ruffet ce qu'il en pense, si c'est possible. Il sera la voix de RMC ce soir à la Méno. Salut Seb.
Salut Simon, salut Seb.
Salut Seb.
Seb, bon, sans parler de l'écart de but, hein, un petit peu improbable, la chance de l'ASM, c'est qu'on sent cette équipe de Strasbourg un petit peu démobilisée quand même cette fin de saison.
Oui, même s'ils ont envie évidemment de finir sur une bonne note devant leur public après une saison. Alors il y a toujours ce débat à Strasbourg de savoir est-ce que cette saison est réussie ou non, sachant que l'objectif c'est quand même de se qualifier encore pour une Coupe d'Europe. Ils finiront 8e quoi qu'il arrive, et ils ont échoué en demi-finale de Coupe de France contre Nice à domicile, ils ont échoué en demi-finale de Conference League contre le Rayo Vallecano. Il y a eu des émotions bien sûr, mais effectivement il y a de la déception au bout du compte vu les investissements qui avaient été réalisés, et Strasbourg a quand même envie de finir sur une bonne note à domicile, voilà, avec devant son public. Pour certains de se quitter entre guillemets en bon terme, puisque cette équipe va être largement remaniée. Donc tout sauf simple pour Monaco, qui va jouer effectivement une équipe de Strasbourg qui ne peut plus rien espérer pour jouer l'Europe, mais qui encore une fois est 8e et juste derrière, et ça reste une équipe de qualité avec des joueurs qui ont aussi envie un petit peu de se montrer, et puis de encore une fois de finir sur une bonne note quoi.
Et puis l'AS Monaco, c'est toujours un adversaire de prestige face à qui on a envie de bien faire. Seb Piocel, cette fois, est-ce que une victoire à Strasbourg, une qualification pour ce qu'on appelle la petite Coupe d'Europe, suffirait à sauver la saison d'un AS Monaco qu'on voyait plus fort, plus haut cette saison?
Non, c'est un peu à l'image de l'OM par rapport au budget, les ambitions de ces deux clubs-là. C'est forcément une saison à oublier. En plus de ça, là, il faudrait que Marseille perde, que Monaco gagne. Strasbourg, oui, ils sont moins bien, mais bon, ils ont quand même gagné à Brest, donc ils se sont un petit peu remobilisés le week-end dernier. Ils avaient fait nul à Angers, et puis je pense aussi, comme l'a dit Seb, qu'ils ont envie de bien terminer la saison à domicile, sachant qu'il y a pas mal de joueurs qui seront plus là. Il y en a qui sont déjà au courant, il y en a qui sont peut-être pas encore au courant. Mais oui, c'est vrai que c'est une saison ratée pour Monaco, surtout qu'il y a eu changement d'entraîneur, ça a mis beaucoup de temps avant qu'il y ait l'effet Pocognoli, et puis ils se sont finalement écroulés à un moment où on s'y attendait pas, et donc même s'il devait y avoir par miracle la Conference League, là aussi, bon, c'est financièrement, ça rentre pas, et puis c'est pas l'ambiance du Vélodrome Louis II, donc sur des jeudis soirs en Conférence Ligue,
s'il faut jouer Bratislava ou Rijeka comme Strasbourg cette saison, ça peut être compliqué quoi. Mais c'est vrai que tu l'as dit, cette équipe de Monaco finalement elle était revenue dans la course, parce que à la 19e journée ils étaient loin, ils étaient 10e à 7 points de la 6e place, à 14 points du podium, et puis finalement ils ont fini par revenir. On se rappelle qu'à la 28e journée, après une série de victoires assez incroyable, mais ils étaient 5e à 1 point de Lille, le 3e. Et c'est vrai qu'on se dit, Monaco, ils ont le vent dans le dos, c'est reparti. Et c'est vrai qu'ils se sont effondrés un peu sur cette fin de championnat avec cette défaite au Paris FC, tu l'as dit. Le nul contre Auxerre à domicile, un nul au TFC.
Le petit rebond avec la victoire à Metz. On les sentait lancés.
Ils avaient gagné à Lyon.
Avec la bonne formule, avec Zakaria dans la défense à 3, il y avait un équilibre.
C'est vrai qu'elle est difficile à lire cette saison de l'ASM, qui a souvent été plus performant et plus séduisant face aux grosses cylindrées, comme on les appelle. Seb, face à donc Monaco sur la pelouse de la Méno, une équipe de Strasbourg qui, en cas de victoire ce soir, terminerait à un point de Monaco, donc à la 8e place. Est-ce que là aussi on peut parler de déception pour Strasbourg? Est-ce que finalement le plus grand signe de croissance de Strasbourg, c'est justement de parler de déception en cas de 8e place?
C'est pas faux, ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est vrai que si on avait dit que tous les ans Strasbourg serait top 8 il y a de ça 4-5 ans, on aurait eu du mal à y croire. C'est vrai que dire on finit 8e, c'est une déception. Ça montre quand même qu'il y a eu une évolution au niveau de l'actionnariat. On va pas y revenir avec Blueco qui a mis de l'argent, mais ça reste mine de rien une déception, parce que quand t'as mis 100 millions dans le mercato cette année, 100 millions l'année précédente, il faut le rappeler on se pose des questions sur la pertinence de certains choix de cet effectif très jeune qui parfois peut dans les grands matchs être absolument exceptionnel et très enthousiasmant et très emballant, et puis quand tu joues sans manquer de respect, mais quand tu joues Angers, quand tu joues Le Havre, ça les intéresse un petit peu moins, et puis on sent que la performance elle est un peu moins au niveau. C'est ce qu'a dit le coach Garioni, il a dit la saison prochaine il faudra absolument qu'on travaille sur cette régularité, absolument trouver pourquoi on n'est pas capable de faire un super match contre Monaco par exemple, ou contre Lille, et puis derrière contre le Paris FC ou Brest on répond pas présent. Donc ça, c'est un vrai axe de travail. Et on parlait finance tout à l'heure, le parcours de Strasbourg cette année en Conference League. Donc demi-finale de Coupe d'Europe, c'est quand même pas rien, mine de rien, dans l'histoire du football français. On a quand même pas souvent des clubs qui vont en demi-finale, faut pas minimiser non plus. Ça va rapporter 14 millions. Imaginez-vous, 14 millions. Si je fais un parallèle avec la Ligue des Champions, pour revenir au cas de Monaco et l'impact et l'enjeu d'équipe comme Marseille, comme Rennes, comme Lyon, comme Lille, Marseille, si on prend le parallèle, Marseille en Ligue des Champions, en ne sortant pas de la phase de Ligue, c'est 50 millions. Donc vous voyez, le delta, il est énorme pour toutes ces équipes, et voilà pourquoi il y a cet enjeu absolument de jouer une Coupe d'Europe, sachant que les droits télé en France, il y aura pas grand-chose. Donc même une Conference League, tu fais un parcours, 14 millions, on crache pas dessus. Et c'est vrai que ce qui est cocasse, pour peut-être finir, mais c'est que Monaco et Marseille ont un, entre guillemets, ennemi commun au quotidien, c'est le GC Nice. Et le GC Nice est en finale de la Coupe de France. Et donc, forcément, si c'est Nice qui l'emporte, ce sera plus compliqué pour tout le monde. Ils sont tous derrière Lens, évidemment. Oui.
En un mot, Seb, elle doit grandir cette équipe.
Seb a tout dit, mais il faudrait, je pense, 3-4 Chilwell dans cette équipe. Je parle par rapport à l'expérience. Mais bon, ils continuent quand même à grandir. Mais ça n'a pas la même saveur. Je pense qu'ils savaient, même s'ils avaient fait les deux finales de Coupe, même en les perdant, là, il y a un goût vraiment d'inachevé sur des mauvais choix. Et puis bon, ils se sont fait harakiri, ils ont changé de coach alors que ça allait bien.
Oui, et il faut voir où on est leur ancien coach qui fait virer depuis de Chelsea. Tiens, qui a engagé Xabi Alonso pour les 4 prochaines saisons. Ça a été officialisé ce matin. Merci beaucoup, Seb Ruffet. On te retrouve en commentaire de ce Strasbourg. Monaco, donc, évidemment, dans le multiplex à partir de 21h. Avant de se quitter quelques instants, on va retrouver Eddy Artigaud. Eddy, ça y est, on connaît le vainqueur du Grand Prix MotoGP de Catalogne, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir des nouvelles de Johan Zarco, le pilote français.
Ouais, évidemment, Simon reviendra sur le résultat de cette course, mais Johan Zarco qui a donc chuté lors du deuxième départ, resté de longues minutes donc dans le bac à gravier, évacué au centre médical du circuit, il a passé des premiers examens qui n'ont rien révélé de trop grave. On évoque des blessures à la jambe et au genou, mais comme le centre médical de ce circuit de Montmélo n'a pas de scanner, eh bien Johan Zarco est parti ensuite en ambulance à l'hôpital de Barcelone et il va passer dans les prochaines minutes donc des examens complémentaires, mais le pilote français du team LCR Honda était conscient. On va également reparler de la terrible chute d'Alex Marquez qui avait percuté lors du premier départ après 12 tours Pedro Acosta qui était en tête, et lui aussi a été transporté dans un premier temps au centre médical conscient. Il a pu échanger avec sa famille avant d'être transporté par ambulance et non par hélicoptère à l'hôpital de Barcelone. On en saura évidemment un petit peu plus, mais enfin les deux pilotes étaient conscients. C'est une première bonne information pour le résultat de la course. Donc après 3 départs, c'est finalement l'Italien Fabio Di Gianantonio du team VR46 du team de Valentino Rossi qui s'est imposé 910 jours après sa première victoire, c'était à Losail en 2023. Donc il a gagné cette course de Barcelone dans le chaos le plus total. Il a devancé 2 autres Espagnols, Joan Mir sur Honda et Firmin Aldeguerre, le coéquipier d'Alex Marquez, notre seul Français donc qui était présent lors de ce troisième départ. Fabio Quartararo a lui terminé 7e de cette course. La prochaine épreuve de ce championnat du monde MotoGP, ce sera le 31 mai prochain, Simon, sur le circuit du Mugello en Italie.
Et on espère évidemment que Zarco pourra tenir sa place et puis qu'il y aura un petit peu moins de chutes et d'accidents que dans ce Grand Prix de Catalogne. Merci beaucoup Eddy, et à très vite sur l'antenne de RMC. Un détour par la route du Giro, la 9e étape du Tour d'Italie de Cervia, Corno à l'escalier, 184 km. Et ça se termine En grimpant, Johan Bredov, où en sont les coureurs?
51 km encore à parcourir, 11 hommes en tête, parmi lesquels le mieux classé au général, c'est Giulio Ciccone qui pointe à 9 minutes et 42 secondes d'Afonso Eulalio, le portugais de la Bahrain Victorious, qui possède lui-même 3 minutes et 15 secondes au général sur Jonas Vingegaard. Encore 50 donc kilomètres à parcourir, et dans 25 km le début des hostilités, tu en parlais avant l'arrivée au sommet tout à l'heure.
On a hâte de suivre cette explication avec toi, le dénouement de cette 9e étape à suivre sur RMC dans l'Intégral Sport. Sébastien Piocelle, toujours là, on se penchera dans quelques instants sur la lutte qui concerne la place de barragiste que tout le monde, que trois équipes souhaitent éviter après cette dernière journée. Mais vous le savez, on a les yeux et les oreilles partout. Dans un instant, on va parler tennis avec Eric Salio. On va présenter la finale du Masters 1000 de Rome entre Sinner et Casper Ruud. Et on va aller prendre des nouvelles de Loïc Boisson. Elle est en lice à Strasbourg et ça se passe pas si mal que ça pour notre joueuse française. Vous ne bougez pas.
RMC Intégral Sport. Simon Dutin.
Vous êtes sur RMC, on est au cœur d'un grand dimanche de sport comme quasiment chaque week-end. Ceci près que celui se conclut par le multiplex, la dernière journée de Ligue 1. Le rideau tombe sur la saison 2025-2026 de notre championnat de France en compagnie de Sébastien Piocelle. On se projette jusqu'à 17h sur les enjeux attachés à certaines des rencontres de cette 34e journée. On a parlé de la course à l'Europe, cette course à la 3e place, la course à la Ligue Europa. On parlera dans un instant de celle qui concerne la place de barragiste. Enfin, les trois équipes qui veulent éviter cette place de barragiste occupée avant cette 34e journée par l'OGC Nice, 16e du classement. Mais vous le savez, évidemment, on a les yeux et les oreilles partout où le sport crée l'événement. En tennis, c'est la finale du Masters 1000 de Rome. C'est pour les messieurs. Yannick Sinner face à Casper Ruud. On va en parler dans un instant en compagnie d'Eric Salio, notre spécialiste tennis RMC Sport, qui passe une tête dans le studio RMC. Salut Eric.
Salut Simon, salut à tous.
Alors avant de parler de la finale homme du Masters 1000 de Rome, donne-nous des nouvelles de Loïc Boisson. Elle est en lice à Strasbourg, demi-finaliste à Roland l'an dernier, un petit peu de mal cette saison. Où en est-elle?
On a retrouvé le sourire sur le visage de Loïc Boisson,
nouvelle.
Puisqu'à l'instant même, elle vient de remporter son premier match de l'année. Ça se déroule à Strasbourg, c'est un WTA 500, donc c'est un gros tournoi. Elle vient de battre en deux manches la chinoise Winyu Wang, 6-3, 7-6. Donc c'est un cauchemar qui s'évacue, parce que elle a vécu un début de saison catastrophique, on le sait, avec une blessure à l'avant-bras qui l'a empêchée d'aller en Australie, qui a reporté sa rentrée sur les cours. Elle a repris à Madrid fin avril. On a bien vu qu'elle était dans un brouillard total. Mais je l'avais dit ce matin dans les grandes gueules du sport, on sentait que ça revenait. Et là, donc, confirmation, puisque cette chinoise est quand même 33e mondiale.
Mieux classée qu'elle, c'est ça.
Donc, c'est une vraie performance. Et on a retrouvé par séquence la magie de Roland-Garros. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle pour le tennis français et pour elle. Elle voit enfin le bout du tunnel. Et donc, c'est en Alsace que ça s'est déroulé. Donc, un immense soulagement pour Loïc Boisson, qui retrouve petit à petit son tennis. Et à une semaine de Roland, c'est super encourageant.
Évidemment, c'est une belle nouvelle. Tu penses qu'il y avait une dimension psychologique, que ça peut, c'est comme le ketchup, là, les victoires peuvent s'enchaîner maintenant que la première est arrivée?
Je pense qu'elle avait surtout besoin de savoir qu'elle pouvait jouer à 100%. Ouais. Et c'est vrai qu'elle ne porte plus le manchon, elle a juste un petit bandage à l'avant-bras droit. Donc je pense que de ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Elle peut aligner des séances d'entraînement et il n'y a pas de secret. Hein. Quand tu peux t'entraîner normalement, eh bien, tu peux être compétitif sur un court. Puis on sait que sur terre battue, elle est géniale. Quoi. C'est une fille qui a des armes extraordinaires sur cette surface. On l'avait vu l'an passé avec son parcours, des victoires sur Pegula, sur Andreeva. Donc, on va suivre son deuxième tour. Je suis en train, en même temps, de regarder le tableau de Strasbourg pour savoir quel sera sa prochaine adversaire. Eh bien, ce sera la Canadienne Victoria Mboko, 9e mondiale, qui a bénéficié d'une wildcard. Donc, ce sera un sacré match, peut-être pas demain, mais après-demain. Mais en tout cas, ce sera un joli test contre une fille qu'on n'a pas souvent vue sur terre battue, mais qui est quand même membre du top 10.
Bon, eh ben, écoute, on espère que Loïc Boisson va retrouver la forme qui lui avait permis d'être la grande sensation du tennis français, même mondial, l'an dernier à Roland-Garros. Du côté des messieurs, Eric, comme le veut la tradition, à une semaine du début des internationaux de France, c'est du côté du Foro Italico que ça se passe.
Absolutamente.
Sous les pins parasols de la cité éternelle.
À deux pas du stadio
à Rome, évidemment.
Où s'est déroulé le derby.
Oui, Roma Lazio à midi.
Oui, c'est pour ça que la rencontre et a été décalée, évidemment, le derby entre la Lazio.
On peut mélanger les populations, ça peut faire des étincelles. Non,
ce magnifique club de tennis de la capitale italienne. On rappelle que tu as un vestiaire personnel attitré à vie.
Ah, je ne savais pas qu'il avait l'info.
Alors, finale, tout à l'heure, à moitié attendu. Je dis à moitié parce que d'un côté, il y a Yannick Sinner, le patron, la machina, le numéro un mondial, face à une sorte de revenant, Casper Ruud, le Norvégien, double finaliste à Roland, oui. Mais qu'on n'a plus trop vu à ces altitudes ces derniers mois.
Et il a été blessé à Monte-Carlo, hein. Petite blessure au mollet. Tu vois, ça peut être très douloureux le mollet. Hein.
Je connais, oui.
Et donc, il a mis du temps à retrouver la forme, et là, il a eu un parcours assez remarquable. Il a notamment mis fin à l'aventure de Luciano Darderi, qui avait créé la sensation à Rome. Et donc, voilà, c'est l'ultime adversaire de Sinner.
Il peut l'embêter cet après-midi ?
Bah, il peut l'embêter, oui, s'il est à son top, et si Sinner a peut-être un petit coup de fatigue.
Il a souffert face à Medvedev.
Il a sacrément souffert contre Daniil Medvedev. On l'a même vu vomir dans un coin du court, être pris de tremblements, un changement de côté, réclamer un tumeur médical alors que normalement il n'y avait pas droit, puisque je pense qu'il souffrait de crampes, et normalement le règlement interdit un arrêt de 3 minutes, mais bon, l'arbitre française Aurélie Tourte lui a accordé, ce qui a fait dire à Dany Medvedev, mais il y a des crampes, hein, on va pas jouer au con, hein. Non, il lui a dit en français, c'était génial la scène, mais bon, Aurélie Tourte a fait confiance à Sinner, qui a dû dire, j'ai une petite douleur à la cuisse, donc il a souffert, bon. L'enjeu est terrible. C'est le seul Masters 1000 qui manque à son palmarès, et ça fait 50 ans qu'un Italien n'a pas gagné au Foro Italico.
Adriano Panatta,
bien sûr.
Évidemment, c'était l'idole de mon papa. Les premiers points échangés, disputés à partir de 17h, donc la finale du Masters 1000 de Rome. Tu nous commenteras évidemment cette rencontre pour RMC. L'Intégral Sport revient dans un instant en compagnie de Sébastien Piocel. On continue de se projeter vers cette 34e et dernière journée de Ligue 1. Vous ne bougez pas, on se quitte quelques secondes, à peine, pas plus.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
À 16h04, de retour sur RMC Intégral Sport en direct jusqu'à 17h. On est au cœur d'un grand dimanche de sport qui se conclura par le multiplex, les 9 rencontres en direct en simultané de la dernière journée de Ligue 1. Le rideau tombe sur la saison 2025-2026 de notre championnat de France, dispositif exceptionnel de RMC autour de Jean-Louis Tour qui prendra l'antenne à 20h30, une demi-heure avant les coups d'envoi, nos commentateurs sur tous les stades, évidemment, les enjeux, la mise à jour des classements en temps réel. Vous ne manquerez rien, évidemment, de cette passionnante dernière journée. Les enjeux, on les a rappelés, la lutte pour la troisième place, la course à l'Europe, la Ligue Europa. Et on en parle tout de suite, cette lutte pour le maintien, éviter à tout prix cette place de barragiste, le 16e de Ligue 1 qui devra affronter en match aller-retour à l'AS Saint-Etienne, qui s'est donné le droit de rêver un retour en Ligue 1. Le match aller aura lieu jeudi prochain. Donc, une incertitude qu'on va détailler en compagnie de Seb Piocel, notre consultant qui est toujours là. On va essayer de savoir qui va finir barragiste. Avant cette journée, c'est l'OGC Nice qui occupe la 16e place. Nice devancé par la JOCR à la différence de but, 31 points pour chaque équipe. Un de retard sur Le Havre, pas encore sauvé non plus. Les Normands se déplacent à Lorient qui n'a plus rien à jouer. Auxerre, on en parlait tout à l'heure avec Jean Baumel, joue sur la pelouse de Lille qui peut assurer sa troisième place en cas de victoire. Et Nice accueille, c'est peut-être sa chance, le FC Metz à l'Alliance Riviera, le FC Metz dernier déjà relégué. Peut-être, en effet, il faut rester prudent. Trois équipes, un seul objectif, éviter, je le disais, cette place de barragiste. On va se projeter sur cette lutte pour le maintien, avec les commentateurs des rencontres concernées qu'on n'a pas encore entendues. On accueille dans l'Intégral Sport Maxime Tilliette pour Nice-Metz et Jean Baumel. Avant ça, tiens, excuse-moi, on va aller faire un petit tour du côté de Bordeaux. Tu sais pourquoi, Seb ?
Quoi, ils ne sont pas montés, c'est ça ?
Le piège. Non, ah ouais, merci.
Ah, excuse-moi.
Si j'avais pu m'attendre à ça. Mais non, parce que c'est l'événement à vivre en direct sur l'antenne de RMC, la finale du tournoi des destinations. Bonjour, Lénaïque Corson.
Salut Simon, salut tout le monde.
Notre consultante rugby de la Dream Team. Tu vois, j'ai failli oublier le détour par Bordeaux.
Comment t'as pu oublier
mais
ça?
Mea culpa, non, alors j'ai pas oublié cette rencontre. J'ai failli oublier de venir te faire un petit coucou avant de parler Ligue 1. Lénaïque, je vais te poser la même question qu'à Pierre. Tu seras au commentaire de cette rencontre dans un stade atlantique qui va pousser derrière nos ouais. Bleus. On veut la victoire, on espère la victoire. Est-ce qu'on rêve de la victoire? Est-ce que ce serait vraiment un tel exploit de battre des Anglaises?
Ah oui, je pense que ce serait quand même un énorme exploit parce que ça fait quand même 16 fois qu'on joue les Anglaises et qu'on perd. Depuis 2018, on n'a pas gagné contre elles. Ce sont les championnes du monde en titre. Elles ont tout gagné, 7 grands chelems d'affilée. Donc on a envie de casser un peu cette hégémonie anglaise et surtout, je pense qu'on est chez nous, tu l'as dit, dans un stade qui va être plein à craquer. L'ambiance va vraiment pousser les Françaises à tout donner. Et on sent que dans cette équipe, il y a quelque chose qui est en train de se créer pour un match de légende aujourd'hui.
Alors oui, Léna, avoir envie, c'est bien. Il va nous falloir, on en parlera, hein, je le disais tout à l'heure, plus en détail avec toi et Pierre, mais est-ce que l'envie suffit? Donne-nous une petite raison, là. Tease-nous un peu des raisons d'espérer avant qu'on instruise un petit peu les chances de nos Françaises tout à l'heure.
Oh, je pense la détermination de nos Bleus aujourd'hui, effectivement, c'est une équipe où il y a 6 nouvelles dans cette équipe de France, donc qui amène énormément de fraîcheur, d'envie de bien faire et qui n'ont pas peur en fait de ces anglaises et puis toutes les joueuses expérimentées qu'on connaît bien, hein, Pauline Bourdon, Manaï Féléou maintenant qui commence à enchaîner les matchs avec les Bleus. Et puis derrière, voilà, on sait que ça sera un très 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 gros combat en défense. Les Françaises ont vraiment quasiment pas pris d'essai sur ce tournoi destination, donc on s'attend à un énorme combat, beaucoup d'intensité sur ce match, beaucoup de hargne. Maintenant, attention à nos Bleus de rester dans la discipline, de pas prendre de carton, de pas excéder cet élan d'envie.
Bon. En effet, trop d'envie, tu l'envies.
Peut tuer l'envie, en tout cas. On peut prendre des pénalités, des cartons, c'est vraiment la chose à éviter aujourd'hui.
Bon, en tout cas, on est très excités parce qu'évidemment, on a envie d'y croire dans un stade atlantique de Bordeaux qui va pousser derrière nos Bleus, ce 15 de France, qui vise donc la victoire et le Grand Chelem, accessoirement, face aux Anglaises, la meilleure équipe du monde. Les Nike Corson, Pierre Thévenet, qui seront aux commentaires de cette rencontre. On reviendra, je le disais, plus en détail, plus en longueur avec vous d'ici 17h. Pour tenter de d'y croire, cette rencontre qu'on vivra évidemment en direct sur RMC. À tout à l'heure, Lenaïg. Je vous le disais, c'est l'autre incertitude de cette dernière journée de Ligue 1. On repasse au foot. Qui va éviter cette place de 16e et barragiste? Qui va s'éviter une frayeur en match aller-retour face à l'AS Saint-Étienne pour conserver sa place en Ligue 1? Je vous le disais, trois équipes concernées. Auxerre, Le Havre et Nice qui occupent actuellement la 16e place. On accueille les commentateurs RMC qui seront au micro pour les deux rencontres dont on n'a pas encore parlé puisqu'on était avec Djibo tout à l'heure, que vous retrouvez pour Lille Auxerre. Maxime Tilliette pour Nice-Metz et Xavier Grimaud pour Lorient, Le Havre. Bonjour messieurs.
Salut Simon, bonjour Xavier, bonjour à tous.
Salut messieurs.
Alors, messieurs, première question, très simple. Vous pouvez profiter de l'absence de Djibo, qui lui représente la JOCR. Lequel d'entre vous sera barragiste au sifflet final ce soir?
Auxerre. Le Havre. Personne ne dit Nice, alors.
Personne ne dit Nice, Maxime Tilliette, je vais te.
Pourtant.
Ouais. Nice, c'est ça, c'est en balle. J'ai rien dit encore, j'attends vos arguments.
Personne ne voit Metz vainqueur.
Ils
sont clairement en ballotage défavorable. Avant cette dernière journée, voilà, il faut gagner à domicile parce que voilà, Nice n'a plus son destin entre ses mains. Alors certes, c'est face à des Messins condamnés à la Ligue 2, mais voilà, Nice est pour la première fois de la saison dans la zone rouge au pire des moments, avec peut-être parmi les autres concurrents, le seul effectif qui n'était pas programmé à se battre pour se maintenir. Ouais. Alors certes, je peux entendre qu'il y a quelques absences du côté de Metz, notamment de Minguet, de Citajvili, mais voilà, Nice avec Claude Puel, c'est seulement 2 victoires en 17 journées de championnat, aucune à domicile. Le dernier succès à l'Alliance Riviera en championnat, c'était au mois d'octobre, donc ça fait quasi 7 mois. Donc voilà, les Niçois auraient pu assurer leur maintien déjà bien avant ça, mais à chaque fois, ils n'y sont pas parvenus. Ce fut le cas le week-end dernier. Ils menaient 1-0 à Auxerre, puis derrière, Auxerre s'est imposé 2-1 parce que les Niçois ont arrêté de jouer, ont reculé. Et d'ailleurs, voilà, faut éviter d'avoir la peur au ventre. Et Claude Puel a beaucoup insisté sur le fait de faire abstraction du contexte et de se focaliser sur le jeu. Ça a été le mot d'ordre cette semaine à Nice. Et voilà, il nous a assuré en plus que lui, ni lui ni son staff ne se tiendraient informés sur ce que font les concurrents. Bon, alors on verra.
On n'est pas obligé de le croire, comme on dit dans le jargon. Maxime, on continue d'en parler dans un instant, mais avant ça, auditrice, auditeur de RMC, vous en avez l'habitude le dimanche. C'est votre rendez-vous qui ne manque pas de sel. Le Quintet en direct. On file à Auteuil. Dimitri Blanc-L'Oeil, le grand Steeple Chase de Paris. C'est du sérieux.
Ah, l'accent.
Le grand Steeple Chase.
Salut Simon, salut Seb. Bonjour à tous. Ouais, bah oui, c'est une épreuve extraordinaire. On est en plein dans l'épreuve. Voilà, on va se mettre dedans. 6000 mètres. Voilà, c'est 6 km le grand Steeple Chase de Paris. C'est la plus belle course d'obstacles du monde. 23 obstacles. Et au moment où je vous parle, nous en sommes au 17e. Donc il nous en reste encore 6. Tout le monde est plus ou moins, enfin, encore en course. On a perdu malheureusement quand même deux chevaux dans la course là, qui sont même tombés d'ailleurs, hein, je viens de voir. C'est Kahadam, l'un des favoris, le numéro 10 et le numéro 14 qui va là du Berlay. Mais on en a encore 12 hein, voilà, qui sont en compétition au moment où je vous parle. Pour l'instant en tête de course c'est Runtos Ganamos, le numéro 4. Alors c'est un cheval, faut savoir qu'il a l'habitude d'aller devant. Mais là c'est 6000 mètres, hein, c'est quand même une épreuve. C'est une fois dans l'année hein, qu'on court 6000 mètres. D'habitude c'est plutôt 4000, 4005. Donc là voilà, on va voir s'il va pouvoir aller jusqu'au bout, Runtos Ganamos. En tout cas, il reste un petit peu moins d'un kilomètre 5 à parcourir dans ce grand Steeple Chase de Paris. La deuxième place, pour l'instant, c'est pour le numéro 6, c'est Kapaka de T, qui fait partie du groupe de tête. On a le numéro 9, Selgem. Selgem, faut savoir qu'il a une histoire particulière. Selgem, il a déjà gagné le grand Steeple Chase de Paris. C'est un vieux tonton maintenant. Il a eu des petits problèmes de santé, mais il revient bien. Alors, est-ce qu'il pourra faire l'exploit de venir regagner cette épreuve? On va le savoir dans un petit peu plus d'un kilomètre. En tout cas, Selgem est venu gentiment se placer aux avant-postes. Il fait bonne figure au moment où on se parle. Et il y a notamment le numéro 11, hein, le petit cheval.
Cheval, oui. J'allais te demander où en est-il, The Little Horse.
Et j'ai failli la faire en plus. Hein.
Ou le poney, ça peut être le poney.
Je le connais bien, mais j'ai failli la faire, The Little Horse. En tout cas, il est aux avant-postes, le petit cheval, le numéro 11. Il fait partie des trois premiers. En tout cas, on attaque très bientôt le dernier tournant de cette épreuve. On rigole un petit peu moins, là. Ça devient difficile hein, pour les concurrents. Avec l'avantage maintenant pour le numéro 9, Selgem. Je le disais, c'est l'un des vieux tontons. Il a de l'expérience, il est costaud, il est incroyable hein, pour l'instant. Je crois qu'il est en train de mettre à mal quasiment tout le monde. Selgem, le numéro 9, qui est toujours en tête pour entrer dans la dernière ligne droite. Il a le petit cheval dans son dos, le numéro 11 qui va jouer les places. Et en troisième position, on a le numéro 4, Runtos Ganamos, qui fait quand même une belle course. Mais l'avant-dernière OE, enfin l'une des dernières OE, en tout cas, c'est toujours Selgem. Selgem, le numéro 9, qui est au commandement. Il va devoir résister à Runtos Ganamos, le numéro 4, qui essaie de se relancer. Mais j'ai l'impression, hein, au moment où je vous parle, que Selgem, qui a quand même les plus grosses des ressources, hein, le numéro 9, il vient de passer ce nouvel obstacle avec Selgem, le numéro 9, qui repart dans la phase finale. Il a 5 longueurs d'avance sur le reste du peloton. Il y en a un petit peu partout hein, sur la piste. Ça devient vraiment compliqué. Il a de l'expérience. Il a beaucoup d'expérience, Selgem. Et il va gagner, à mon avis, son deuxième grand Steeple Chase de Paris. Il a été finalement monstrueux hein, dans les 500 derniers mètres. Et c'est Selgem qui s'impose, le numéro 9. On a du mal à finir avec les autres concurrents. J'ai l'impression que c'est Bon Garçon, le numéro 3, qui a terminé en retrait et qui est venu chercher la deuxième place. Finalement, ramasser un petit peu tout le monde. Mais on a assisté finalement à une démonstration. Johnny Charron qui s'impose associé à Selgem, le numéro 9. Et je le disais, bon, je pense que vous l'avez compris pendant le commentaire, il a une histoire particulière puisqu'il a gagné le grand steeple, c'était il y a quelques années de ça. Il a eu des petits soucis de santé et vous voyez, il renaît de ses cendres là aujourd'hui. Ah oui, franchement, il fait une drôle de performance, Selgem, le numéro 9. La deuxième place, pour aller vite hein, Simon, le 3 qui termine deuxième, Gold Tweet, le numéro 2, troisième devant le numéro 4, Runtos Ganamos, et la cinquième place pour le numéro 1, In Love. Voilà pour l'arrivée provisoire de ce grand Steeple Chase de Paris. On se retrouve un petit peu plus tard, aux alentours de 17h, pour l'arrivée définitive et les rapports de cette grande course. À tout à l'heure.
Merci beaucoup, Dimitri.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La confirmation évidemment de ces résultats dans le prochain journal. Les infos de Inès Aiglou à 17h. Avant ça, en compagnie de Sébastien Piocel, on revient à notre lutte pour éviter la place de barragiste, la 16e, après cette dernière journée de Ligue 1. On est avec Maxime Tilliette qui sera au commentaire de la rencontre entre Nice et Metz. Nice actuellement 16e de Ligue 1. On est avec Xavier Grimaud qui lui commentera Lorient-Le Havre. Les Normands pas encore tout à fait sauvés, même si ceux qui sont dans la meilleure position avant cette 34e journée. Seb, par rapport à ce que disait Maxime, avant de te faire réagir, on va écouter Claude Puel qui nous disait... en substance, en conférence de presse. Non, il ne faut surtout pas se dire que c'est un match pour le maintien. Mmh. C'est un match comme les autres.
Comme je dis, il faut toujours se concentrer sur le jeu, sur ce qu'on veut mettre en place, de quelle façon on va l'aborder. Bon, après, c'est des mots, bien sûr. Et toute la semaine a été, je dirais, très studieuse. Il faut arriver à vivre ça le plus sereinement possible, si l'on peut, en sachant qu'il faut, encore une fois, avoir des sourires, parce que c'est un jeu. Donc, il faut être déterminé, et on le saura, contre cette équipe de Metz.
Alors Seb, il est bien gentil, Claude Puel, mais bon, et d'ailleurs, il l'admet lui-même, il dit ce ne sont que des mots. Ouais. Est-ce qu'il est possible, Maxime rappelait, ce n'est pas un effectif qui est programmé pour jouer le maintien. Est-ce que tu peux oublier que tu joues le maintien ce soir face à Metz?
On a déjà discuté
on en a parlé hier.
C'est inaudible. Enfin, même si c'est un discours face à la presse, déjà la manière, je sais pas quel discours il va faire en avant-match, mais bon, il faudra qu'il mette certainement un autre ton.
Parce que justement, il n'y a pas de contenu
à avoir. Forcément, ça reste des joueurs de haut niveau. Ils savent quand même faire le minimum sur l'aspect tactique. Là c'est bleu de chauve, c'est le match d'une saison, c'est tout donné pour gagner cette rencontre quoi qu'il arrive, en plus contre Metz qui a pas gagné un match depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, enfin ils en ont gagné très peu d'ailleurs. Donc c'est que des éléments, on va dire, de motivation, d'envie. Et après on est tous d'accord pour dire qu'il y a quand même de la qualité dans cet effectif-là, certainement plus que leurs deux adversaires du soir direct. Mais ils sont pas préparés à ça, donc ils ont même pas à calculer. Eux, c'est gagné. Et je pense pas que Le Havre et Auxerre gagnent. Peut-être qu'il y aura des nuls, mais voilà. Ouais. Donc,
Claude Puel l'a dit, hein, c'est nous, on doit faire notre travail, et si nos deux concurrents gagnent à l'extérieur, bravo à eux, mais voilà, c'est d'abord à Nice de faire son job.
Bon, Maxime, on ne va pas faire de la science-fiction, mais alors je ne parle même pas de la descente de l'Ogecy Nice. Ce serait absolument.
Bah, là, ils ne descendent pas, de toute façon, même s'ils étaient barrés.
Non, mais je veux dire, tu as raison, en effet, parce qu'il y aura quand même une double confrontation, mais. Bon, il sera temps de faire les comptes. Ça va chauffer un petit peu dans les bureaux.
Ça te gâcherait tout là avec la Coupe de France au milieu. Enfin,
c'est ça parce que du coup, ça enlèverait de la saveur à cette finale de Coupe de France à disputer face au Racing Club de Lens. Je vais me vautrer dans un poncif, Maxime. Mais l'été va être chaud, va être brûlant du côté de l'OGC Nice.
Mais déjà le club a beaucoup, enfin l'entraîneur et le président de la saison de l'été dernier sont partis en cours de saison. Florian Maurice, bon c'est un secret de polichinelle, mais il ne sera bientôt plus là et un autre directeur sportif prendra le relais. Donc voilà, est-ce qu'il y aura des investisseurs aussi? Il y a de plus en plus de rumeurs qui disent que oui, mais à quelle échéance? Donc ça reste assez flou. Les contours du projet niçois sont flous cet été, mais l'été déjà aussi ces derniers mois, ce qui peut aussi expliquer où en est l'OGC Nice aujourd'hui, mais toujours est-il que sur le papier, quand on regarde l'effectif, on ne se dit pas que ce Nice-là va se battre à la dernière journée pour se sauver, comme ce fut le cas en 2011 ou en 2012. Donc voilà. Et alors, d'accord, Nice aura encore deux matchs à jouer si jamais ce soir à minuit ils sont encore 16e. Mais je suis curieux de voir avec quel état d'esprit Nice abordera les trois semaines à venir avec la finale de la Coupe de France, ces deux matchs de barrage face à Saint-Etienne. Ça va être un contexte encore plus particulier dans une saison qui ne ressemble à aucune autre.
Oui, et qui sera de toute façon, quoi qu'il arrive, raté. On peut d'ores et déjà s'engager là-dessus. Xavier Grimaud, au commentaire de Lorient Le Havre. Alors, une fois n'est pas coutume, mon cher Xavier, c'est sur le club normand que je vais venir te chercher. Le Havre qui n'est pas encore tout à fait sauvé, même s'il est dans une position un peu moins inconfortable que Nice et Auxerre. Mais là encore, méfiance sur une pelouse d'un FC Lorient, toujours aussi imprévisible.
Bah, un peu plus confortable, il peut.
Non, je dis un peu moins inconfortable, attention.
Un peu moins inconfortable, oui, voilà. T'as raison, les mots sont importants. Disons que quand même, le problème, c'est est-ce qu'on imagine Le Havre gagner à Lorient pour se sauver? Moi, j'ai du mal à l'imaginer au vu de la saison assez dingue que font les Merlus au Moustoir, hein. C'est deux défaites seulement au Moustoir cette année pour les Lorientais. Tous les gros du championnat sont tombés, hein. Rennes est tombé, Lens est tombé, Monaco est tombé, Lyon est tombé.
Bon, Le Havre, c'est pas un gros, déjà, non, c'est bon.
Ouais, oui, non, c'est sûr. Le Paris Saint-Germain a fait match nul. Bref,
Nice
à domicile.
Nice est tombé.
Donc les Lorientais auront envie de finir fort au moustoir. Il y aura énormément de festivités aussi pour honorer Olivier Pantaloni qui va partir. Enfin bref, le contexte, le lieu n'est pas simple pour les Havrais pour gagner. Et on rappelle, une victoire et ils se maintiennent. Après, donc, faut compter sur les résultats des autres dans ce cas-là. Et bon, moi, j'ai dit Le Havre quand tu posais la question parce que bon, j'imagine assez bien Nice battre Metz malgré tout. Et puis, je sais pas, je vois bien Auxerre capable de bétonner à fond pour gratter un petit nul de Lille peut-être. Et ce n'est pas parce que je commente aux sirènes que je dis ça. Hein, c'est vraiment parce que je le pense évidemment. Donc aussi Le Havre n'a pas gagné depuis 11 matchs. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls, notamment
en faisant nul par exemple. Et si, comme tu dis, Auxerre fait nul, il me semble que ça reste Le Havre qui reste.
Ça suffit. Ouais.
Oui, ça suffit. Si le Auxerre fait nul et Le Havre fait nul, effectivement, ça suffit. Donc un nul peut, oui, ils peuvent éventuellement jouer le nul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est
toujours un peu risqué de miser sur le nul.
Non, mais je dis pas de jouer le nul.
Non, ça peut passer.
Mais si c'est ce résultat-là, vu que Le Havre fait beaucoup de matchs nuls, que alors c'est vrai que Lorient à domicile et puis même globalement, ils font une superbe saison. Ils seront, alors je dis pas qu'ils seront démobilisés parce que finalement ils nous prouvent un peu le contraire,
mais
souvent ça fait un peu, enfin c'est le dernier match de la saison.
Il y a un côté irrationnel dans ces dernières journées, en effet, on sait jamais trop.
Ils vont être en feu, comme autant, bon finalement ils vont passer à côté de leur match.
Face à Le Havre qui va jouer un des matchs les plus importants de sa saison.
Ce qui est sûr, c'est que les Havrais vont sans doute peut-être rester pour une troisième saison de suite en Ligue 1. À chaque fois, ils ont fini 15e, donc juste au-dessus de la ligne de flottaison. Et ils sont capables de faire des gros coups en dernière journée. Hein. Ils avaient battu Strasbourg l'an dernier.
Avec la panenka extraordinaire
d'Abdoulaye Touré, pleine de sang-froid dans les arrêts de jeu du match à Strasbourg. Alors, Abdoulaye Touré, il est blessé depuis un moment maintenant, donc il sera pas là. Mais donc, ils sont capables de le faire.
Et ils sont surtout programmés, même si c'est un peu différent d'Auxerre, parce que eux, finalement, ils se sont imaginés un peu sauvés à un moment donné. Ils avaient fait presque le plus dur. Et puis, sans gagner, c'est revenu. Et Auxerre, c'est différent. Auxerre, et finalement, comme on disait tout à l'heure, ils visaient quelque part au départ cette place de barragiste, parce qu'il y avait beaucoup de points d'écart. Et là, finalement, ils sont sortis de cette zone-là. Donc, mais c'est vrai que je suis pas en train de prendre parti pour tel ou tel club, mais. Je vois qu'à Auxerre ou au Havre, ça n'a pas changé d'entraîneur. Je ne dis pas qu'ils sont plus méritants, mais par rapport à Nice, entre l'effectif qu'ils ont à disposition, changement d'entraîneur.
Tu penses que c'est Nice qui a le moins bien travaillé.
Ils font leur saison.
Mériterait donc de finir 16e. C'est logique.
Ça, c'est sûr qu'ils ont moins bien travaillé sur les trois clubs. Parce que Auxerre.
Ce serait plus dur qu'Auxerre ou Le Havre soit sanctionné.
Dans le contenu, Auxerre, il y avait toujours quelque chose. Le Havre, on connaît les grosses difficultés financières. Et puis, ça serait une troisième saison dans l'élite. Après, sur ces matchs-là. Moi, je trouve que Lille a du mal à conclure, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, pas évident aussi. Je vois bien Nice rester à cette place-là.
Eh bien, écoute, début de réponse à 21h, les coups d'envoi des 9 matchs de cette dernière journée de Ligue 1. Lille-Auxerre, Jean Bobel au commentaire. Nice-Metz, Maxime Tilliette. Et Xavier Grimaud au micro pour Lorient-Le Havre. À tout à l'heure, messieurs. On a hâte, on va se régaler, on va vibrer. On va voir des retournements de situation, dispositifs exceptionnels de RMC, la mise à jour des classements, c'est la spécialité de Jean-Louis Tour, inégalable dans cet exercice, à chaque but marqué, la mise à jour du classement pour l'Europe et évidemment pour cette lutte pour le maintien, éviter à tout prix la place de barragiste. Un petit détour par la route du Giro, la 9e étape. Johan Bredov, que se passe-t-il sur les routes du Tour d'Italie?
On est à 25 km de l'arrivée. Les coureurs qui sont au pied de la première des deux ascensions qui vont conclure donc cette étape avec un groupe de 6 hommes en tête. Giulio Ciccone notamment qui est là, Ener Rubio, Diego Ulissi pour les meilleurs grimpeurs présents parmi les 6 hommes de tête qui possèdent moins de 2 minutes d'avance sur le peloton. Maillot rose porté par Afonso Eulalio, le portugais de la Bahrain Victorious, moins de 2 minutes. Donc, normalement, ça devrait se jouer entre les favoris du classement général pour la victoire d'étape tout à l'heure en haut du Corno à Yescalé. Donc, 24 km encore avant l'arrivée.
Et c'est tout ce qu'on espère. À tout à l'heure, Johan, pour l'explication entre les favoris. Vous ne manquez rien du Tour d'Italie ni de la saison cycliste sur RMC. L'Intégral Sport revient dans un instant, du foot, mais aussi du tennis et du rugby, comme d'habitude. On se régale, comme chaque week-end sur RMC, vous ne bougez pas.
RMC, Intégral Sport, Simon Dutin.
À 16h, presque 30 minutes, vous êtes bien sûr RMC, Intégral Sport en direct jusqu'à 17h, avant de faire la passe à Karine Galli. On fait la chaîne jusqu'à ce multiplex, la dernière journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1, 9 matchs en simultané, dispositif exceptionnel de RMC, mais ça ne vous surprendra pas, on est présent sur tous les stades, les matchs en direct et la mise à jour des classements avec les enjeux attenant à la troisième place, la course à l'Europe et le maintien autour de cette 16e place qui sera synonyme de barrage face à l'AS Saint-Etienne en match aller-retour, match aller jeudi prochain. Le dénouement donc, les coups d'envoi à partir de 21h, la prise d'antenne autour de Jean-Louis Tour à 20h30. Avant ça, Intégral Sport, je vous le disais, autour de Karine Galli avec Maxime Chanot qui reviendront eux aussi sur les enjeux de cette journée de Ligue 1. 17h45, le coup d'envoi du crunch, le 15 de France féminin face à l'Angleterre pour le Grand Chelem et la victoire dans le tournoi des Six Nations. Dans un instant, on retrouvera Pierre Thévenet et Léanie Corson. Seb Piocel, il y a une équipe dont on n'a pas encore parlé dans notre petit tour d'horizon de cette 34e journée.
Paris Saint-Germain.
Ah oui, par exemple.
C'est rare qu'on parle pas de
le PSG qui va conclure sa saison.
J'allais dire Nantes, mais bon.
Oui, ah mais ça on en a parlé la semaine dernière, souviens-toi. Le PSG, donc champion de France pour la 14e fois de son histoire. Qui va conclure, mon cher Arthur Perrault, bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous.
Salut Arthur. Qui va conclure, c'est cocasse quand même, cette saison sur la pelouse de, alors on peut pas encore dire rival, de son voisin.
Voisin, on voisin peut dire, parisien, ouais,
oui, oui. C'est la fête des voisins.
De Jean Bouin, le PSG qui va se voir remettre le trophée de champion de France sur la pelouse du Paris FC.
Exactement, puisqu'il y a eu d'intenses discussions ces derniers jours entre à la fois le Paris Saint-Germain, la Ligue de football professionnel et donc le Paris FC, puisque le hasard du calendrier fait que, comme tu le disais Simon, le dernier match de la saison pour le PSG, c'est ce très bref déplacement du côté du stade Jean Bouin pour y affronter le Paris FC. Et donc Paris y fêtera son 14e titre de champion de France, acquis, on le rappelle, en milieu de semaine lors du déplacement à Lens, match en retard et victoire des Parisiens au stade Bollard 2-0. Et donc voilà, ça fait suite à plusieurs discussions, d'abord avec la Ligue de football professionnel pour essayer de trouver un timing pour fêter ce 14e titre de champion de France, et ensuite des discussions avec le Paris FC. Et donc tout le monde est tombé d'accord sur cette remise du trophée qui aura lieu en avant-match, à 20h, soit une heure avant le coup d'envoi. Les supporters du Paris Saint-Germain qui sont invités pour l'occasion à rejoindre le stade le plus tôt possible avant 20h pour profiter de ce moment. On rappelle que le parcage visiteur du stade Jean Bouin sera plein avec 1000 supporters du PSG présents. Donc ces 1000 supporters du club champion de France pourront célébrer ce 14e titre.
Et peut-être pourquoi pas le début d'une rivalité, puisqu'on précise que le PSC disputait la première saison de son histoire à l'échelon supérieur en Ligue 1. Témoin privilégié de cette première saison réussie, on peut d'ores et déjà le dire, c'est Aurélien Tiercin qui sera au commentaire pour RMC de ce PFC PSG. Salut Aurélien.
Salut Simon, salut à tous.
Salut. Je le disais, je parle sous ton contrôle, mais on peut parler de réussite. On va revenir avec vous deux sur le PSG, bon, même s'il y a peu d'enjeux, mais le PFC, qui a réussi sa saison et qui va vouloir finir par une belle victoire de prestige face aux voisins champions de France.
Ah bah c'est l'objectif, ouais, c'est peut-être aussi de marquer encore un peu plus les esprits, même si on se fait pas d'illusions sur la difficulté de battre le Paris Saint-Germain, mais le Paris FC, son objectif, c'était de se maintenir confortablement, à savoir entre la 8e et la 12e place. Bon bah le Paris FC 11e, ce sera déjà le meilleur classement de l'histoire du Paris FC en première division. Alors ils ont pas passé beaucoup de saisons dans l'élite française, mais voilà, l'objectif est acquis. Alors il y a eu des montagnes russes avec le départ de Stéphane Gilly qui n'était pas forcément prévu en début de saison, mais depuis l'arrivée d'Antoine Comboiré, tu es passé de la 15e à la 11e place, tu t'es maintenu en Ligue 1 à 4 journées de la fin. Donc effectivement, tout le monde est ravi de cette première saison, avec au début quelques doutes sur le mercato, mais finalement même cet hiver, les arrivées de Rudy Matondo, de Diego Coppola ou de Marshall Munetti ont été vraiment capitales finalement dans la course au maintien. Donc globalement, tout le monde a le sourire au Paris FC.
Seb, surpris, rassuré cette saison du Paris FC? Il y a eu deux lectures, Aurélien le rappelait, il y a eu un avant et un après Antoine Camboré.
Ah oui, ça c'est sûr qu'ils ont bien rectifié le tir. Après, il y a beaucoup d'attentes aussi par rapport à l'actionnaire. Forcément, le fait que on annonce quand même si ça mettra un peu de temps, une deuxième grosse équipe sur Paris, ça a mis peut-être un peu de pression. Et je pense que finalement le niveau et le fait de s'habituer aussi à la Ligue 1. Il faut un peu de temps aussi. Pour l'instant, moi l'impression que j'ai, c'est que le projet, il est pas encore très très clair. C'est toujours l'impression que j'ai. Mais finalement, ouais, s'ils finissent à la 11e place, ils seront dans le milieu de tableau. À voir après maintenant comment ils vont préparer la prochaine saison avec Antoine Camboré, pas Antoine Camboré, avec quel joueur. On parle de
le schéma est clair, hein, de développement. Seb, c'est juste que ça prend plus de temps que ce que nous on voudrait, enfin les observateurs, en disant
mais c'est quoi le projet de développement derby. En fait
c'est la saison prochaine de viser aller officiellement, pour l'instant on dit entre 7 et 10, mais bon, si on peut
tout le monde peut le dire, ça c'est projet de développement du classement ou projet de développement du projet vraiment.
Là, le centre d'entraînement, les travaux ont commencé, donc ça va se poursuivre. Il y aura 8 terrains par rapport à 3 au début de la saison dernière. Donc il y a aussi des gros investissements dans le centre d'entraînement. Là, ça va pas vous parler tout de suite, mais les féminines qui se qualifient pour la finale d'Arkema Première Ligue, c'est aussi dans le développement du club. Le centre de formation qui est renforcé avec plus de scouting, plus de jeunes qui pour l'instant n'émergent pas encore en équipe première, mais on se laisse le temps de se développer là-dessus. Mais effectivement, on va pas faire des stars à 50 millions tout de suite, même si Rudy Matondo, c'était quasiment 20 millions d'euros. Patrick Zabi qui arrive de Reims,
il y a très peu de clubs français qui peuvent le faire. Donc
oui, voilà, exactement. Oui, mais tu peux pas aussi enlever que dans l'effectif pour l'instant, t'as des Ali Mami Gori, des Vincent Marchetti, des Jean-Philippe Crasso, des Adama Camara, qui sont aussi des joueurs qui sont passés par des moments plus compliqués dans leur carrière
et, ouais, bah, et qui ont quand même répondu qui à mon avis, au fur et à mesure sortiront, à mon avis, de.
Oui, déjà dès la saison prochaine, il y a des fins de contrat. Hein, là, il y aura aussi, on parlait des festivités tout à l'heure. Le Paris FC qui ne voulait surtout pas la remise du trophée après le match, notamment, pour des feux d'artifice et des jeux de lumière, etc. Ça, vous le verrez, enfin, on le verra. Mais il y a aussi les départs à venir, de Julien Lopez, de Marchetti, de Gori, de Kolo Dziadziak, de Rémi Rioux, voilà, des joueurs qui sont là depuis un moment.
Moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que par rapport au budget qu'ils peuvent avoir, en fait il y a rien qui achète l'expérience et le temps. On le voit à tous les échelons, on l'a vu avec le PSG pour la Ligue des Champions, et aujourd'hui mettre en avant le fait qu'ils aient bien travaillé, pourquoi pas, mais il y a d'autres équipes avec moins de moyens qui ont aussi bien travaillé, voire mieux. Mais bon, après c'est une première année dans l'élite, c'est un projet sur le long terme, et moi j'ai hâte de voir, parce que bon, c'est comme c'est toujours à la mode les projets. J'ai lu l'article dans l'équipe aujourd'hui là du directeur sportif. Bon, il nous annonce rien d'exceptionnel, quoi.
Oui, mais vous avez rappelé qu'en effet il y a des sommes qui ont été quand même engagées et qui sont pas à la portée de n'importe quel club.
Mais il y a aussi 20 millions sur Matondo, joueur, mais le Havre, ils ont dépensé 0 euro, donc de dire qu'il va y avoir des terrains, tout ça, tant mieux.
Je pense que Paris FC sera bien au-dessus du Havre.
Oui, non, mais c'est pour dire que c'est pour dire voilà, finalement ils finissent 11e, 12e.
Mais il y a zéro. Heureusement, ça, on nous l'a répété mille fois, mais il y a pas d'expérience en Ligue 1. C'est pas comme un club comme Lorient qui donc est un promu qui terminera devant probablement 9e de Ligue 1. Donc c'est mieux que le Paris FC, sauf que Lorient c'est un club qui connaît la Ligue 1 assez souvent avec un effectif aussi. Il y a pas de grandes stars dans cette équipe de Lorient, mais l'expérience de la Ligue 1, la pression qu'il y a autour de cette équipe du Paris FC, c'était pas la même. Et puis Stéphane Gilly, qui a été évincé malheureusement pour lui, mais qui faisait du bon boulot quand même. Lui n'avait aucune expérience non plus de la Ligue 1 en tant qu'entraîneur principal, donc il y a tout ça à prendre en compte. Après, je comprends ce que tu veux dire, on a envie de mieux avec effectivement quasiment on va dire 70 millions d'euros dépensés sur le marché des transferts, mais l'effectif il part d'assez loin, et comme le répète souvent le président Pierre Ferracci, il faut 4 mercato pour créer une équipe compétitive dans une division, en tout cas pour les objectifs annoncés. Donc on peut imaginer que s'il y a une qualif européenne dès la saison prochaine, ce sera du bénéfice, ce sera du plus, de la plus-value, mais l'objectif c'est de se battre vraiment pour l'Europe dans 2 saisons, quand il y aura eu 4 mercato pour constituer une équipe très solide de Ligue 1.
Et puis, messieurs, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a les investissements conséquents, mais il y a aussi l'identité des joueurs. Voilà, c'est, on prospecte, il y a des paris, il n'y a pas eu de sensationnalisme. Bon, il y a eu Tiro Immobilier qui est un nom, mais on n'est pas allé chercher des noms pour des noms pour attirer forcément du public. Et voilà, on fait les choses dans l'ordre. Arthur Perrault, comment le Paris Saint-Germain, le grand frère qui domine le foot français depuis des années, accueille l'arrivée de ce projet et la croissance de ce projet chez le voisin?
Plutôt bien, et d'ailleurs je me souviens du discours de la direction parisienne au moment de l'arrivée du Paris FC en Ligue 1 et de l'implication, du début de l'implication de la famille Arnaud. Tu parlais de concurrence, c'est peut-être un peu fort. Grand frère, oui, c'est peut-être plus la situation à l'instant T, parce qu'il n'y a pas vraiment de grande rivalité. Non. Évidemment que le Paris Saint-Germain a peut-être encore un petit peu en travers de la gorge l'élimination en 16e de finale de Coupe de France à la mi-janvier mi-janvier dernier, mais voilà, c'est encore une fois, le projet n'en est pas au même niveau, mais Nasser Al-Khelaifi et Antoine Arnaud entretiennent une excellente relation. Ça leur arrive de jouer souvent au Pas de l'Ensemble d'ailleurs, donc voilà, ils s'appellent régulièrement, je sais qu'ils se donnent beaucoup de conseils, ils se croisent très souvent, donc c'est une petite rivalité très très saine aujourd'hui. Évidemment que, comme le dit Aurélien, si à un moment le projet du Paris FC commence à gonfler et faire un petit peu d'ombre au Parc des Princes qui est juste à côté, là, ça, à mon avis, ça posera un petit peu plus de problèmes du côté du Paris Saint-Germain.
Bon, et ça pourra peut-être pimenter oui, nos saisons, nos semaines de Ligue 1 PFC-PSG. C'est l'affiche inédite, donc, en Ligue 1, la dernière, la 34e, le PSG qui va donc recevoir son titre, son trophée de champion de France sur la pelouse du voisin. Pour l'instant, pas encore tout à fait rival, on l'a bien compris. Aurélien Tersin vous fera vivre cela dans le multiplex sur RMC. À tout à l'heure, Aurélien. Merci beaucoup, Arthur, d'être passé.
Salut, messieurs.
À l'Intégral Sport. On a hâte, évidemment, je vous le rappelle, prise d'antenne de Jean-Louis Tour à 20h30. Les coups d'envoi sur les 9 stades, évidemment, à partir de 21h. Et puis l'after, évidemment, à la suite de ces rencontres. Vous ne bougez pas, on va faire un petit détour par la route du Giro, la 9e étape du Tour d'Italie. Johan Bredov, est-ce que on a des favoris devant? Est-ce qu'on va avoir l'explication qu'on... On est tous impatients d'avoir.
Hein. On aura la réponse dans quelques minutes maintenant, parce qu'il reste moins de 17 kilomètres avant l'arrivée. 200 mètres encore avant le sommet de la première difficulté du jour. Le Quartiola, où les 4 hommes de tête, les 5 hommes de tête vont passer dans quelques secondes maintenant, parmi lesquels Giulio Ciccone, Toon Hertz, Lorenzo Milesi, Einer Rubio ou encore Diego Ulissi, qui sont donc en tête, qui possèdent plus de 2 minutes d'avance. 2 minutes et 12 secondes d'avance sur le peloton, justement des favoris dans lesquels il n'y a pas de casse pour l'instant dans cette première ascension. On attend surtout le corneau à escalader 10,8 km 6% de moyenne, mais il y a des replats, c'est surtout les derniers kilomètres qui vont être très difficiles, avec des pentes qui iront jusqu'à 15%, donc 16 km 500 encore avant l'arrivée. L'explication est attendue dans quelques minutes maintenant.
Le cyclisme, le foot, le tennis, et dans un instant le rugby avec la finale du tournoi destination féminin. Comme d'habitude, vous ne manquez rien dans l'Intégral Sport, mais vous le savez, évidemment.
C'est Intégral Sport, Simon Dutin.
La dernière ligne droite de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 17h, toujours en compagnie de Sébastien Piocel. À 17h, on fait la passe à Karine Galli pour l'Intégral Sport, toujours, mais avec évidemment une petite projection sur les rencontres de cette dernière journée de Ligue 1, dont on a détaillé les enjeux. Karine Galli, Maxime Chano, 20h30 après Bartoli Time, votre rendez-vous du dimanche, la prise d'antenne de Jean-Louis Tour avant les coups d'envoi des 9 matchs à vivre en direct en simultané sur l'antenne de RMC à partir de 21h, et l'after pour débriefer. Le rideau tombe donc sur cette saison 2025-2026 de Ligue 1. Mais l'autre événement sport de ce dimanche, vous le vivrez en direct sur l'antenne de RMC, c'est ce qu'on peut qualifier de finale du tournoi destination féminin de rugby. Un crunch France-Angleterre, s'il vous plaît, au stade Atlantique de Bordeaux, où nous attendent Pierre Thévenet, notre spécialiste rugby RMC, et Lénaïque Corson, notre consultante de la Dream Team. Rebonjour à tous les deux.
Rebonjour Simon, salut à toutes et à tous.
Salut tout le monde.
Bon, on l'entend, plein d'enthousiasme dans votre voix.
Bien sûr. À
une heure maintenant, un tout petit peu moins du coup d'envoi. Vous êtes passé chacun dans l'Intégral Sport depuis 15 heures. Je vous ai posé la même question. Est-ce que ce serait vraiment un tel exploit que cela? On a bien compris, hein, que bon, après 17 défaites d'affilée, en effet, une victoire des Françaises cet après-midi serait, allez, non pas historique, mais bon,
presque.
Tu fais bien de le dire. Redonnez-nous pour les auditrices et les auditeurs qui auraient pris l'Intégral Sport en route des raisons, allez, pas de rêver, mais d'y croire. On veut y croire, on veut pas en rêver.
Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs des raisons d'espérer. On va oublier ces séries de longues défaites, cette domination de l'Angleterre. Parmi les raisons, les Naïcs, il y a l'arrivée de François Ratier à la tête de l'équipe de France. C'est le nouveau sélectionneur qui est arrivé en janvier pour mener cette équipe de France. Il vient des Lyon du Stade Bordelais. Il était double champion de France. Il a été finaliste de la Coupe du Monde avec le Canada aussi en 2014. C'est un homme qui connaît très bien le rugby féminin et il a apporté quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est que on sent que les filles y croient vraiment depuis qu'il est arrivé.
Elles y croient et je pense que c'est son charisme, sa personnalité, tu l'as dit, son pédigré qui amène beaucoup de légitimité de François Ratier dans l'effectif. Elle réclamait de la compétence, plus de compétence sur différents aspects du jeu. Et aujourd'hui, il a composé une équipe qui a de l'expérience. Hein. On parle aussi peu de Gérald Bastide, mais il a autour de lui des hommes
s'occupe de la défense,
très compétents. Et Gérald Bastide a déjà été entraîneur de la défense du 15 de France et également chez l'équipe de France A. Donc c'est un homme aussi de l'équipe qui a toute son importance dans l'effectif.
Et au-delà de ça, Simon, d'autres raisons, c'est la France qui est la meilleure défense de cette compétition devant l'Angleterre. Ce sont les quelques absentes aussi côté anglaise. On en liste 4 ou 5. Anna Botterman, Alex Matthews, la capitaine, Abby Ward, la deuxième ligne, Tatiana Heard, la centre. Il y a des absentes de marque côté anglais. Et puis, il y a des nouvelles côté français. 6 joueuses qui n'ont jamais joué à l'Angleterre sur la pelouse cet après-midi. Donc là aussi, ça compte. C'est des joueuses qui ont l'habitude en plus de gagner assez largement dans les catégories espoirs face à cette équipe anglaise. Et donc, qui n'ont pas de complexe avant d'affronter ces Red Roses.
Justement, Pierre Lénaïgue, alors on sait que dans le monde du rugby, on n'aime pas tellement mettre en avant les individualités, mais le grand public a besoin, vous le savez, de s'identifier à des stars, j'ai envie de dire, à des vedettes. Détaillez-nous, là, donnez-nous quelques exemples de ces joueuses du 15 de France qui peuvent faire la différence, qui peuvent avoir une influence sur le cours d'une rencontre.
Je commence par ma chouchou, Lénaïgue, et puis je te laisse liste après. Ambre Moyembe, la pilière gauche du Stade Toulousain.
Il avait poster déjà dans
de cette équipe. Non, mais Ambre, c'est une joueuse que vous allez voir qui est hyper dynamique sur le terrain, qui a envie, et puis qui est souriante, qui est marrante, qui a envie qu'on parle du rugby féminin, qui veut mettre en avant ce sport. Elle est très naturelle, et sur le terrain, ça donne une boule d'énergie. Et elle, pour le coup, on avait parlé beaucoup pendant la Coupe du Monde que les Françaises étaient un peu trop gentilles face à ces méchantes anglaises qui vraiment, elles nous parlaient mal, et quand même, c'est pas ça le rugby. Elle va leur rentrer dedans, ça c'est certain. Donc moi j'aime beaucoup en moyen B. Puis après les Nike, je sais pas si t'en as toi à mettre en avant.
Non, et puis je pense que t'as raison de le dire, Ambre. Elle casse aussi un peu les stéréotypes de la joueuse de rugby qu'on peut imaginer bourrine, rustre. Ambre, elle fait beaucoup attention à son physique. Ses cheveux sont toujours bien lissés, toujours impeccables.
Toujours bien maquillée avant d'entrer sur le terrain.
Et c'est vrai que c'est un peu sa marque de fabrique qui fait qu'elle est très reconnaissable rapidement sur le terrain. Mais au-delà d'avoir une joueuse qui fait attention à son physique, non, c'est surtout le physique, l'intensité, l'engagement qu'elle met sur le terrain qui est juste incroyable.
Mais sinon, il y a les cadres, on peut donner quelques cadres.
Voilà.
Oui. Pauline Bourdon-Sansu, la demi-mêlée, Madou Soufal-Raclo, la deuxième ligne, Mana Efele ou la capitaine. Il y a de l'expérience aussi dans cette équipe de France.
Oui, et puis il y a des joueuses qui font la différence. Hein. Madou Soufal-Raclo, elle n'a jamais déçu en équipe de France. Elle est capable d'avancer très très fort avec le ballon, de faire des plaquages impressionnants. D'ailleurs, l'équipe de France, c'est l'équipe qui fait le plus de plaquages offensif, 37 déjà depuis le début du tournoi destination. Donc il y a un réel engagement qui se voit sur le terrain et ça c'est ce qu'il nous faut. Hein. C'est ce qu'il nous faut pour aimer cette équipe de France et aujourd'hui on commence à l'aimer. Donc avec une petite victoire aujourd'hui, on l'aimera encore plus.
Évidemment, Pierre Thévenet, les Nikers sont notre duo de choc pour commenter ce crunch, ce France-Angleterre, la finale du tournoi destination féminin de rugby, le coup d'envoi 17h45 au Stade Atlantique de Bordeaux. Les amis, puisqu'on est dans les individualités, les joueuses à suivre, à surveiller, on va passer de l'autre côté parce que vous avez souligné, il y a des absentes côté du 15 d'Angleterre, mais il y a quand même ce phénomène, cette Ellie Kilden dans les lignes arrières de l'Angleterre. Parlez-nous un petit peu de cette joueuse. Elle aussi, elle contribue quand même à la popularisation de ce sport outre-Manche, mais pas seulement dans le monde. C'est un vrai phénomène.
Le dit dans les colonnes de l'équipe magazine, je suis une tueuse qui sourit. c'est le personnage. Elle aime bien, elle aussi, parler, mettre en avant le sport. Et puis, c'est sans doute la joueuse la plus rapide du circuit. Elle va très très vite. Elle a des qualités physiques qui sont au-delà de la moyenne. Elle a un jeu au pied qui est parfait. Elle est la meilleure joueuse du monde actuellement, Ellie Kildon, l'arrière anglaise.
Oui, et au-delà d'être aussi une très très bonne joueuse de rugby qui nous a fait très mal pendant la demi-finale de la Coupe du Monde en Angleterre. C'est aussi une personnalité en Angleterre. Hein. Elle a été élue personnalité sportive de l'année. C'est pas rien dans un sport qui était quand même plus confidentiel dans les années passées. Donc vraiment, on sent qu'il y a beaucoup d'attentes sur cette joueuse. Elle est suivie aussi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Donc tout ça met beaucoup d'animation sur le terrain. On sait aussi que c'est une joueuse qui a du caractère. On se rappelle encore cette demi-finale où elle fait un chute à Marine Ménager sur le terrain. Donc c'est vrai que c'est le crunch, c'est ce petit moment croustillant, ces petits détails d'intensité dans les regards, dans les maillots qu'on vient accrocher, dans les contacts un petit peu aussi qu'on a aussi, l'image qu'on peut avoir d'un crunch dans sa totalité, quoi. Autant l'engagement sur le terrain que les petits pas mauvais gestes, mais en tout cas les gestes qu'on retient.
Oui, mais il faut pas avoir peur, parce que les Daïg, je vais y aller franco, est-ce que les Anglaises, on les déteste autant que les Anglais, je veux dire, chez les filles, oui. Comme pour chez les garçons. Oui.
Peut-être plus, moi je dirais.
Ah oui.
Plus.
Non mais honnêtement, il y a une vraie tension. Puis en plus, ça a été construit avec les années. Comme tu l'as dit, ça fait depuis 2018 qu'on n'a pas gagné. Pauline Bourdon-Sansu est la seule joueuse des 23 tricolores aujourd'hui à avoir déjà battu l'Angleterre. C'est pour vous dire que il y a une telle domination de la part des Anglaises et certaines équipes. Tu sais, Simon se nourrissent de l'adversité. Je trouve que les Red Roses, elles se nourrissent du fait d'écraser leurs adversaires. Elles sont jamais aussi fortes que quand elles sentent qu'en face, ça commence à baisser la tête. Et donc, c'est là qu'elles commencent à chambrer, c'est là qu'elles commencent à célébrer des grattages, à célébrer très fort les essais, à attraper les maillots. Parce que c'est là qu'elles sentent le regain d'énergie. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir beaucoup, les Nike, dans le rugby. Et c'est quelque chose qui, à la Coupe du Monde, a fait beaucoup agacer les Françaises. Oui.
À part Pollock, chez les hommes. Mais effectivement, elles ont des attitudes qui font que ça anime encore cet héritage de crunch. En tout cas, on sait que sur le terrain aujourd'hui, ça va pas être des cadeaux qu'ils vont envoyer, que les Françaises vont pas se laisser faire. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont dans une autre confiance, une confiance plus collective qu'elles ont les unes envers les autres. Et ça, je pense que ça va se ressentir très fort sur le terrain. Et il y aura peut-être moins de gestes de ce type sur le match, parce qu'elles voudront rendre à ces Anglaises.
Sans vouloir caricaturer, les amis, le volet tactique, je lisais dans les colonnes du Midi Olympique là de vendredi que les Françaises ont battu plus de défenseurs et ont fait plus de franchissements que les Anglaises. Est-ce que on peut dire que chez les filles aussi, l'espoir va passer par le jeu? Je n'irai pas jusqu'à convoquer le French Flair, mais est-ce qu'il faut envoyer du jeu ou est-ce qu'au contraire, il faut pratiquer un rugby restrictif pour limiter les initiatives anglaises?
Il va falloir faire un peu des deux, il va falloir être cadré comme le fait François Ratier depuis qu'il est arrivé, c'est-à-dire installer un cadre solide, arrêter de jouer tous les ballons un peu n'importe comment pour rivaliser avec les Anglaises. Maintenant, c'est certain qu'elles sont plus fortes devant, elles sont plus costauds et que donc il va falloir les déplacer un petit peu pour pouvoir trouver la clé.
Bon, vous savez quoi, les amis, on va demander
ça. On y croit. Hein.
Évidemment qu'on y croit.
Vous nous avez pas besoin de le rajouter.
Non,
ça.
Non, mais vous nous avez convaincus et puis vous nous avez même un petit peu agacé là avec cette rivalité là entre les Françaises et les Anglaises.
Non, mais puis Simon, on se dit qu'elles viennent de gagner la Coupe du Monde, les Anglaises, et que là c'est à Bordeaux. Elles sont sur le toit du monde. S'il y en a eu un qu'elles lâchent de match sur les 4 prochaines années, c'est peut-être celui-là.
Et puis impossible n'est pas français, comme vous le savez. On va demander à William s'il est d'accord. Il a fait le 32-16. Il vient nous parler de ses espoirs avant cette rencontre. Bonjour William.
Oui, bonjour à tous.
Alors, confiant, pas confiant, on y croit, on n'y croit pas?
Oui, on y croit énormément, bien sûr, puisque les équipes, les Anglaises championnes du monde, très belle équipe, qui sont sur plus de 30 victoires consécutives. Mais si on doit les prendre, c'est maintenant, parce qu'il en manque quand même des joueuses importantes. Attention, l'équipe d'Angleterre a un vilier qui est quand même assez, mais quand même assez impressionnant. Mais le nôtre aussi, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, nos équipes jeunes performent. Notre équipe à 7 de rugby 7 est performante depuis plus de 10 ans maintenant sur la scène internationale. Donc n'oublions pas, les Françaises travaillent très bien depuis des années. Et une donnée importante, c'est que les Anglaises marquent beaucoup de points, bien évidemment, mais en prennent beaucoup aussi. Donc la stratégie
plus que nous,
sur le
vrai.
Jeu, bien sûr, c'est la première fois depuis 20 ans que les Anglaises prennent autant de points. Elles sont clairement parties sur un renouvellement des générations, avec des filles qui ont un peu moins de puissance, avec des filles qui sont sur un jeu moins restreint. Elles mettent plus de vitesse qu'avant, elles déplacent beaucoup plus le ballon qu'avant, mais elles s'exposent plus. Et nous, on a une équipe qui est quand même plutôt constant en défense, qui est capable de bien déplacer le ballon aussi. Donc moi, je serais plutôt partisan d'une stratégie où on garde le ballon le plus longtemps possible et on prend un maximum d'initiative, un petit peu quel que soit l'endroit où on se situe sur le terrain.
Et ben voilà, William, au soutien de Pierre et Lénaïque pour nous donner des raisons d'espérer avant ce crunch, la finale du tournoi Destination féminin de rugby. France-Angleterre, coup d'envoi, 17h45 à vivre évidemment en direct. Sur RMC, Pierre Thévenet, Lénaïque Corson, on vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette petite note d'espoir et d'enthousiasme. Merci à William d'avoir fait le 32-16. Merci à Sébastien Piocel de nous avoir accompagnés.
Merci à toi, Simon.
Lui aussi, il y croit vivement ce soir.
On va regarder les filles quand même.
Évidemment, on va vibrer. Ce sera autour de Karine Galli qui prend les platines du studio RMC Intégral Sport à suivre. Autour de Karine, le dénouement de la 9e étape du Tour d'Italie également. Et puis la projection, évidemment, sur les enjeux. La dernière journée de Ligue 1, le rideau tombe sur la saison 2025-2026. Vous restez bien, évidemment, sur RMC. Le sport, le débat, l'info ne s'arrête jamais. Salut.
RMC Intégral Sport.